Gameblogueuse, gameblogueur, bienvenue dans le podcast 154, le bilan du mois de septembre. On renoue avec la bonne vieille tradition des bilans, histoire de revenir avec à propos, discernement et envie sur l'actualité du mois écoulé. Et pour cela, et ben vous le savez, à chaque fois on a un invité de prestige. Aujourd'hui nous recevons l'excellent Erwan Carillo de Libération. Ça va bien ?
Bonjour, bonjour, oui ça va très bien et toi ?
Ah ben écoute, ça va super. Alors Erwan, tu es responsable de bons papiers jeux vidéo sur Libé, mais aussi de l'excellent podcast Silence, on joue, quatrième saison déjà.
Ouais.
Et un deuxième podcast, décidément, le podcast d'écran.fr qu'on retrouve aussi sur nos lives le mercredi à 20h. Et on nous a souligné qu'il faisait de l'ombre à certains JT nationaux.
Ouais, voilà, il panique à TF1 et France 2 parce que 20h, c'est un peu l'heure fatidique pour eux. Hein, c'est un
la
peu.
La grande messe.
Et là, les publicitaires commencent à se barrer. Enfin bon, à nos lives, ils reçoivent des appels. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai un peu de remords, donc on va voir si on se déplace pas à 19h30 quand même pour leur laisser leur chance. Il risque d'y avoir des gens qui vont perdre leur métier. Je culpabilise un peu.
Achevons-les un grand coup.
Ah bon.
De quoi ça parle justement le podcast d'écran.fr? Parce que c'est un podcast qui ne parle pas exclusivement de jeux vidéo, qui mixe toute l'actualité numérique, c'est ça?
Voilà, c'est toute l'actualité numérique. Et justement, ça parle de tout sauf de jeux vidéo, on va dire, parce que le jeu vidéo, c'est Silence en joue. Et là donc on parle beaucoup d'internet, on parle aussi en fait de tout ce qu'il y a sur les écrans, donc ça nous arrive de parler de cinéma, de séries télé, de choses comme ça. Internet, on connaît les sujets en ce moment, par exemple c'est beaucoup d'Adopi, c'est beaucoup de Google, de vie privée, de voilà, de droit à l'image.
Mark Zuckerberg qui doit être dans l'actualité d'écran.fr aussi
un petit peu, enfin il y a quelqu'un dans l'équipe qui a déjà vu The Social Network, donc on va en parler.
C'est bien ou pas,
alors il dit que c'est pas mal, lui il avait lu le bouquin qui était pas terrible, donc il a pas appris grand chose, mais bon c'est Fincher aux commandes quand même.
D'accord.
Ça en impose.
Un gage de qualité en termes de réalisation en tout cas.
Voilà.
Ok, on va parler avec toi du coup de toute l'actualité puisque tu as pu jouer à nombre de jeux de ce mois-ci. Dans ce podcast, bien évidemment, on va revenir, et vous l'avez vu, Tiger était si présent, notre champion du monde, forcément pour un duel FIFA-PES qui s'annonce assez houleux. Ou pas, vous le découvrirez dans quelques instants. On reviendra aussi sur Halo Reach, sur Castlevania Lords of Shadow avec Julo, Civilization 5, auquel t'as joué pas mal, Erwan.
Ouais.
Tu es en train de te faire botter les fesses par Ramsès 2, je crois.
Voilà, mais j'ai un gros problème avec Ramsès 2, mais on en parlera.
Il y aura aussi du Kingdom Hearts Birth by Sleep, du Metroid, du F1 2010, enfin bon, il y aura tous les titres qui ont fait vraiment l'actualité du mois de septembre. Et puis bien sûr, on reviendra sur les temps forts de ce mois-ci avec les événements, l'annonce de la 3DS, officialisation de la date, du prix, la sortie du PlayStation Move le 15 septembre dernier, le Tokyo Game Show, on reviendra rapidement dessus. Il y a eu un podcast qui lui a été dédié, hein, mais il se tenait du 16 au 19 septembre avec une revitalisation, quelque part, un petit peu du jeu vidéo japonais. On verra un petit peu si tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, certaines news que nous avons choisies, dont vos questions, car vous le savez, c'est l'une des particularités désormais des podcasts bilan de l'actualité, c'est que vous pouvez poser vos questions et donc nous y répondrons comme ça. Et on rappelle que ce n'est pas forcément que des questions, ça peut aussi être des points de vue sur des jeux qu'on, justement, nous permettront de rebondir. Peut-être que vous serez en désaccord avec nos tests, nos critiques, nos informations. Ben, n'hésitez pas, comme ça, le débat n'en sera que plus riche. Mais on va commencer, vous le savez, traditionnellement avec les infos Gameblog, les infos de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre 2010? Eh bien, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on a ouvert une boutique jeux, voilà, en partenariat avec Amazon, qui vous permet donc eh bien, d'acheter vos jeux au meilleur prix, hein.
Meilleur prix pour beaucoup d'entre eux, en tout cas c'est vrai qu'il y a des bons prix sur Amazon. Pour le moment c'est tout bête, il suffit juste de cliquer sur l'onglet boutique, hein,
c'est bien fait, c'est logique,
on y a beaucoup réfléchi, et puis bientôt on va un peu inclure ça de manière plus simple et plus évidente avec les fiches jeux, etc. Donc ça va continuer d'évoluer à l'avenir, et même si c'est pas grand chose, sachez que si vous achetez vos jeux en passant par ces liens, ça nous reverse un petit peu de sous, donc c'est toujours ça de gagner pour
nous. Et pour vous, ça ne vous coûte rien parce qu'on n'ajoute pas de marge, hein, Gameblog, sur le prix de ces jeux qui, quand même, globalement, par rapport au prix constaté en boutique, sont sensiblement moins chers. Hein.
Ouais, c'est l'avantage aussi de passer par un revendeur internet.
Exactement, avec des livraisons Amazon bien assurées, pas comme certains, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis aussi un petit point sur les premiums, car vous êtes de plus en plus nombreux à être premium sur Gameblog et on vous en remercie parce que vous le savez, hein, c'est important pour la vie, la santé de Gameblog.fr. On a besoin de vous, hein, pour continuer cette aventure. Alors voilà, le podcast est disponible en vidéo, bien sûr, filmé avec talent par Poufy, et vous êtes très nombreux à le consulter, ça nous fait bien plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire, hein, parce que vous l'avez vu, on organise très fréquemment maintenant pour les premium soutiens des journées ou des soirées dans lesquelles eh bien, il se passe différentes choses. À chaque fois, des beaux lots à gagner. Il y a eu des places pour le Stade de France. Il y a eu des présentations de Castlevania Lords of Shadow en avant-première. Julo, ça se passe comment ces belles journées ou soirées premium?
Donc pour les premium soutiens, comme tu disais, effectivement, bah, ils sont invités à venir nous rencontrer à la rédaction. Donc quand ils arrivent, on peut leur faire visiter nos locaux, leur expliquer un peu la façon dont on fonctionne ici, dont on travaille au jour le jour. Il y a également, évidemment, comme tu disais, des petits défis qu'on organise. On a sorti les PlayStation Move la dernière fois. Et bien sûr PES 2011 pour gagner, comme tu disais, une place au Stade de France. Et puis surtout, on discute tous ensemble, passionnément, voilà, sur notre sujet, les jeux vidéo, et sur plein d'autres aussi d'ailleurs. Donc voilà, on passe des petits moments sympathiques ensemble. Et puis c'est une façon pour nous de remercier tous nos membres premium soutien qui participent, comme tu le disais, encore une fois, à l'évolution de Gameblog, à la vie de Gameblog, et voilà.
Et puisqu'on parle de premium, aussi parfois on a la chance de pouvoir vous faire visiter les locaux de No Life.
Tout
avec
à fait.
Alex ouais, Pilote ouais. En maître de cérémonie. Donc ça fait bien plaisir. Parce qu'il y a des petits secrets dans les caves de No Life. Allez, on va repartir maintenant vraiment, ça y est, dans l'actualité 100% jeux vidéo. Et vous le savez, traditionnellement, on parle de la personnalité du mois, l'homme ou la femme qui nous a fait rêver par ses propos ou son attitude. Et bien ce mois-ci, unanimement, ça n'a pas mis longtemps à être sélectionné.
Non, pas trop.
Ça a été notre ami Bobby. Alors Bobby Kotick, hein, le président d'Activision, qui nous a fait des petites coquetteries, comme on les appelle ici. Raon, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu la situation? Il est surpuissant, cet homme.
Alors, ce qu'il faut savoir avec le père Bobby Kotick, c'est qu'il traîne quand même derrière lui un sacré paquet de casseroles, de déclarations qui sont en général assez problématiques pour nous, du point de vue économique. Il passe un petit peu comme une machine à blé sans scrupules, on va dire. Et il s'est fait attaquer aussi violemment donc, par d'autres personnes de l'industrie, notamment Tim Schafer, qui est donc le développeur de Brutal Legend entre autres, et un des grands développeurs de la grande époque de LucasArts des jeux d'aventure, qui l'a carrément traité de connard, hein, faut être clair là-dessus. Donc il a donné une interview dans le fameux magazine Edge récemment pour essayer de redorer un petit peu l'image, sa propre image et celle aussi d'Activision, qui ont pâti à la fois. Il y a eu aussi l'incident avec Infinity Ward, les développeurs de Call of Duty qui se sont barrés en perte des fracas.
J'aime bien quand tu dis incident, ouais. Alors qu'on sait que c'est juste la méga merde.
C'est ça. Et bref, donc il a essayé de revenir sur ces différents points. Et ce qui est assez amusant dans ces déclarations, qui sont en intégralité sur Gameblog si vous voulez les consulter, parce que je les connais pas toutes de mémoire évidemment, c'est qu'il y a une sorte de stratégie en deux phases où tu as d'abord la parade. Par exemple, pour Tim Schafer, c'est « mais je n'ai jamais vu ce monsieur, comme il débarque, il me traite de connard, je ne le connais pas ». Donc, et puis la contre-attaque ensuite, donc pour le cas de Tim Schafer, ça va être par exemple « mais on m'a dit qu'il n'est pas très fiable », etc. etc. Et puis il finit en taclant Electronic Arts, donc, qui était quand même avant la fusion, qui a fait naître Activision Blizzard, l'éditeur numéro 1 de jeu, et qui est donc maintenant plus le premier, en essayant de passer les projecteurs sur quelqu'un d'autre, tu vois. Donc de mon point de vue en tous les cas, ça n'a pas très bien marché, cette espèce de défense. Mais en tous les cas, c'est toujours amusant de le voir se démener par rapport à ce qu'il dit, quoi.
Alors moi je suis d'accord sur Tim Schafer, moins d'accord sur Electronic Arts, parce que je trouve qu'il a dit un truc très juste. C'est en gros il soulignait que chez Electronic Arts, quand il travaillait avec des studios, ça devenait tout de suite des EA Vancouver, des EA Los Angeles,
et qu'en gros,
c'était renommé instantanément, et qu'en gros la couleur du studio disparaissait un petit peu. Et il soulignait une chose qui est vraie, et on le sait, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui n'ont plus envie de travailler pour Electronic Arts. C'est une fuite un peu des talents, parce que ils sont moins bien payés, il y a des conditions de travail très élevées, etc. Et il disait, nous chez Activision, regardez, il y a des Infinity Ward, même si l'exemple est...
Oui.
Voilà. Mais on a des Treyarch, etc. À chaque fois qu'on travaille avec des studios, on garde leur nom et on essaie de respecter leur identité. Après, ce qu'on entend, nous, de certains développeurs qui disent que ça a l'air d'être un peu tendu de travailler aussi avec Activision, certes. Mais j'ai trouvé que sur ce point de vue-là, il n'avait pas totalement tort, et que je n'accablerai pas Bobby Kotick à 100%.
Là-dessus, non. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est quand même le truc. À la base, on est là pour parler d'Activision et de Bobby Kotick. Et de ce que vous avez dit, par exemple, moi, je veux retirer le fun du développement de jeux vidéo.
Il dit que c'est une blague.
Ouais, évidemment, c'était une blague. Et tous ceux qui n'ont pas compris que c'était une blague sont des imbéciles. Ça, c'est la contre-attaque. Donc voilà. Et à la fin, pouf, on essaye de changer de sujet, quoi. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça, en tout cas.
Qu'est-ce que t'en penses, Erwan, de ce personnage Kotick?
Le personnage fait un peu peur dans l'industrie du jeu vidéo. Nous, on a moi, je me souviens, c'est... Enfin, je me souviens, non, c'est, d'ailleurs, c'est une réalité.
C'était en 1825.
Non, mais on a tous une admiration pour Nintendo, par exemple. Pas forcément pour les jeux qu'ils font, mais au moins il y a quelque chose qui est irréprochable chez eux, c'est que c'est les game designers, c'est les créateurs de jeux qui arrivent à la tête, qui arrivent en haut, c'est Iwata, Miyamoto, on les connaît. Et là, Bobby Kotick, c'est un financier, c'est un requin. Enfin voilà, il a cette vision complètement économique, industrielle de la chose, et il fabriquerait des yaourts, ce serait la même chose. Et donc c'est vrai que pour nous joueurs qui aimons ça, qui voilà, une boîte de jeux pour nous, ils doivent faire des bons jeux, et puis le reste tant mieux s'ils survivent, il faut qu'ils survivent, mais le but, c'est pas de faire plaisir à leurs actionnaires, quoi. Pour nous, c'est pas notre problème. Et Kotick, il est dans une logique purement industrielle,
de rentabilité
absolue. Et puis voilà, c'est des gens qui viennent de l'industrie, de la finance, et c'est vrai que c'est choquant parce que on voit aussi avec encore une fois avec Nintendo, que des créateurs de jeux, quand ils arrivent à la tête de grosses entreprises multinationales, ils savent faire aussi, et ils savent trouver des idées, et je veux dire, la Wii, la DS, les choses comme ça, c'était on les a appelés des cash machines, des it makes money,
it prints money,
mais c'est quand même des idées de créateurs de jeux, et il n'y a pas besoin d'être financier pour faire du pognon dans le jeu vidéo, en fait.
Et ça reste un métier de création, enfin ça reste une industrie de création, quoi, qui est centrée sur la créativité.
Et puis Electronic Arts a répondu, hein, forcément, à ces allégations de Bobby Kotick, en soulignant quelque chose de très vrai, c'est que la santé financière d'Activision aujourd'hui était établie sur trois piliers essentiels. Mm-hmm. L'un, World of Warcraft, dans lequel Bobby Kotick n'a rien à voir dans la sauce, parce que c'est du côté de Blizzard. Le deuxième, Guitar Hero,
qui est en perte de vitesse.
Et de l'autre, Call of Duty, avec les problèmes d'Infinity Ward qu'on connaît. Donc en gros, les trois piliers sont un peu ébranlés ou n'ont pas grand chose à voir.
Et là-dessus, ils n'ont pas tort. C'est vrai qu'une entreprise basée sur trois produits, même s'ils marchent, même si c'est des cartons monstrueux, c'est quand même basé sur World of Warcraft, même s'il y a tous ces millions de joueurs, c'est quand même, il y a un moment, ça va s'essouffler. Et donc maintenant il y a Starcraft 2, mais Blizzard,
ils sont trop forts.
Blizzard, à chaque fois qu'ils sortent un truc, de toute façon ça cartonne.
Voilà. Mais t'as pas à payer tous les mois.
Ouais,
donc tu prints moins de monnaie.
Ouais. Voilà.
Enfin bon, Bobby Kotick, en tout cas, notre meilleur ami du mois de septembre 2010. On l'attend généralement, c'est à peu près tous les 2-3 mois qu'on a le droit d'avoir une petite citation sympa, donc on risque d'en reparler. Allez, on va passer aux grosses sorties du mois. Et là, mesdames et messieurs, laissons entrer sur le terrain le champion du monde de la rédaction, l'homme que le ballon rond aime d'amour et d'eau fraîche, notre catalan à nous, Julien, Tiger Suplex. On va faire le duel FIFA PES.
Ouais, bah carrément.
Alors c'est parti, chaque année c'est un peu la rengaine. D'habitude on a un podcast dédié, mais là, on va dire que la messe... On a une vidéo dédiée effectivement avec Julo, mais là comme la messe va être dite un peu plus rapidement que d'habitude...
C'est vrai.
Ça aurait été un petit peu long, une heure à se tirer à être d'accord en gros. Donc tu nous situes un petit peu les différences?
Oui, FIFA était sur une bonne lancée depuis ces dernières années, c'est pas un mystère, et on va le dire tout de suite, a encore le dessus cette année. Des supers animations, ils ont franchi un nouveau cap graphique, encore une ambiance comme d'habitude, tu sais, qui s'adapte au jeu, les chants des supporters, enfin vraiment c'est...
Ah, on est
c'est
dedans, il n'y a pas à
encore,
dire.
Dans FIFA.
C'est les animations moi qui m'hallucinent, c'est-à-dire que vraiment à partir du moment où on est à plus de 5 mètres de l'écran, et qu'on pisse un chouïa les yeux.
Ouais, tout à fait.
S'il n'y avait pas d'indication aux jeux vidéo, genre des cercles ou des trucs comme ça, on regarderait un match de foot.
Ouais, tout à fait. Alors après, le truc, c'est que PES 2011, c'est une bonne cuvée aussi. Ouais. C'est pas un mauvais PES. Cette année, on trouve vraiment des sensations qu'on aimait en fait sur PlayStation 2. Il y a un nouveau système de passes qui permet d'être plus précis. Et puis on retrouve toujours quand même cette intensité du gameplay de PES qui fait qu'il y a des types qui ne veulent pas entendre parler de FIFA, même s'il est supérieur sur plein de points. Il y a encore une grosse communauté... PES. Donc FIFA encore largement au-dessus cette année.
Moi, il y a un truc vraiment que je reproche cette année à PES, et qui est paradoxalement l'un de ses atouts, des choses qu'ils ont vraiment travaillé, c'est le jeu dans les espaces, le jeu sans ballon. C'est-à-dire que pour une fois, jusqu'à présent dans les PES, c'est vrai que dès qu'on faisait une passe, ça allait sur un joueur, alors plus ou moins bien, mais enfin en gros, on pouvait pas vraiment mettre le joueur entre le ballon entre deux joueurs. Là maintenant, on peut. Le seul problème, c'est que ça peut vraiment bien marcher si les joueurs font des appels de balles.
Oui.
Je trouve que dans FIFA, ils en font un peu trop. C'est-à-dire qu'on voit toujours un gars qui lève la main, genre fais-moi la passe. Fais-moi, calme-toi, gars, laisse-moi jouer. Mais dans PES, pas assez. Et du coup, ça annihile un peu des velléités de construction.
Bah, oui, parce que contrairement à FIFA, t'as toujours pas le droit de faire des appels manuels dans PES. Donc souvent, tu te retrouves avec le ballon, t'as qu'une envie, c'est que tes attaquants partent et c'est impossible, quoi, parce qu'ils tournent comme ça autour de toi. Mais pour avoir vu Sibas à la finale mondiale de PES à Majorque,
l'homme poisson.
Tous les journalistes français qui se sont succédés se sont mis d'accord pour lui poser cette question.
Ah, oui,
est-ce que on aura enfin des appels manuels dans PES ? Et alors, jusque-là, c'était non, ça va tout déséquilibrer, c'est impossible et tout. Et là, pour la première fois, il nous a dit qu'il y réfléchissait.
Oh. Donc, voilà.
la révolution.
Bon, dans 3 ans, peut-être. Non, mais c'est vrai que c'est un bon cru, mais c'est vrai que FIFA est tellement plus riche.
Ouais, tellement plus riche. Et puis autre chose d'ailleurs avec Sibas, on lui a parlé aussi du gardien qu'on peut contrôler maintenant dans FIFA, c'est-à-dire que dans les parties en ligne, on peut faire vraiment du 11 contre 11. C'est très fun, hein, le contrôle du gardien. Moi, j'ai beaucoup aimé.
On peut se faire chier aussi. Hein. Si on joue avec des potes qui sont bons, on est comme ça.
Ouais, si en face, c'est l'OM et Brandao, c'est sûr que bon, en tant que gardien, on est tranquille.
Oh là là.
Mais aussi, ouais, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez du gardien, quoi, du contrôle du gardien. Et visiblement, ça l'intéresse aussi. Donc, on sait que c'est cyclique, hein, les jeux de foot. Hein. Mmh. FIFA s'est aussi beaucoup inspiré de PES pour repasser devant. Voilà, Sibas commence peut-être à être un peu moins hermétique.
Certains reprochant d'ailleurs à ce FIFA 11 de ne pas être non plus radicalement différent de FIFA 10. D'être
ouais.
À peu près sur la même mouture avec des vraies belles améliorations au niveau des animations, des visages des joueurs,
ouais.
Etc. Mais c'est pas non plus une révolution.
Ouais,
hein.
Mais faut pas non plus trop pinailler parce que le FIFA 10 était déjà un bon niveau et EA aurait pu se contenter vraiment de mettre... quelques licences en plus, je sais pas, des L2 danoises ou je sais pas quoi, ça se trouve à lier en plus, donc mais voilà, il y a quand même des grosses nouveautés et pour un jeu de foot qui est vraiment en position dominante, qui se vend vraiment par millions en ce moment, c'est vraiment un bon FIFA 11. Voilà.
C'est clair. Avec, dans les deux jeux néanmoins, quelque chose d'assez space, c'est les pénaltys, qui sont devenus plus difficiles à marquer que dans la réalité. C'est quand même un peu bizarre, je sais pas ce qui se passe. C'est ultra sensible dans PES. Dans FIFA, c'est le cas aussi.
Alors, la différence, c'est qu'en fait, dans FIFA, au moins... quand tu les rates, tu sais pourquoi, parce qu'il y a une jauge, tu sais, c'est la jauge.
Il y a le stress aussi qui rentre en
voilà,
compte.
Voilà, alors c'est du. En fait, si t'as une petite jauge qui va du orange au vert, le vert étant au milieu, si tu places bien ton curseur sur le vert, t'as plus de chances de cadrer. Donc, et puis en plus, c'est cool parce que au bout d'un moment, quand c'est le pénalty décisif, t'as la manette qui vibre, les battements du cœur. Ouais. Donc c'est très immersif. Alors que dans PES. Je t'avoue, je ne sais pas tirer les pénaltys. J'ai
beau essayer. Moi, j'ai fait mon premier match de PES à l'occasion de la dernière soirée premium et j'ai pas marqué un seul pénalty.
Mais oui.
Et je n'osais rien dire parce que j'ai juste une grosse merde à PES. Je me disais, c'est moi qui ai pas compris le système.
Non, là, on était tous dans le même cas avec Julio, c'était pareil. On faisait, oh putain, on a marqué un pénalty, j'en sens le champagne. On n'a pas très bien compris non plus. Oui.
Non, pour en avoir parlé avec les champions français qui étaient à Majorque, ils m'ont expliqué qu'en gros, il fallait se faire des sessions de 2 heures de pénalty pour être au point. Quoi.
D'accord.
Donc bon. Ouais, mais bon, les pénaltys, c'est pas le plus fun à travailler,
non.
Donc il faudrait peut-être changer ça dans le futur.
Et puis normalement, avoir un pénalty, c'est un avantage déterminant sur un match.
Ouais,
bah là, plus trop. Hein.
Ah non, pas du tout.
Ok, est-ce qu'on a un truc à rajouter pour conclure sur ce duel qui clairement tourne à l'avantage de FIFA 11 cette année ?
Bah non, on espère juste que PES 2011 va continuer sur cette lancée, par contre, que les prochaines éditions garderont ce feeling qu'on a retrouvé, parce qu'on a un PES. Agréable malgré tout, mais FIFA est encore au-dessus.
Ce qui est bien quand même, c'est une concurrence super saine.
Exactement.
Je trouve que c'est vraiment le jeu de foot aujourd'hui depuis 6 ou 7 ans. Il y a cette concurrence PES-FIFA et qui est très très saine pour le jeu de foot en règle générale. Et on sait très bien, et il faut que PES repasse devant à un moment, que ce soit l'année prochaine, l'année suivante, et FIFA repasse à devant. Et je trouve cette concurrence super, super saine et ça donne des vrais bons jeux. Quoi.
Mais enfin, c'est très juste ce que tu dis, parce que si PES 2011 était tout seul, on le considérerait comme le bon jeu de foot à jouer. Mais là, il souffre vraiment de la comparaison, en fait.
Mais effectivement, il faut qu'à un moment, PES repasse devant, parce que sinon, il y a un moment, Konami ne mettra plus d'argent dedans.
C'est quand même PES qui a fait que FIFA est devenu un très bon jeu.
Il est encore très joué en Espagne, en Italie et même en France. Hein. Je sais que...
PES est un jeu de pays latin, globalement.
Tout à fait, ouais.
Dans le reste du monde, là, clairement, chez les anglo-saxons, c'est FIFA à fond. Et on peut les comprendre, cette version est excellente. Allez, on passe à un autre jeu qui a marqué l'actualité. On va passer à Halo Reach,
Halo Reach, c'est quand même un petit peu l'événement, hein. C'était le 14 septembre dernier, sur Xbox 360 exclusivement, après un épisode de DST qui avait été un petit peu contrasté. Là,
qui
c'est
un spin-off, quoi, vraiment, voilà. En tant que tel.
Là, c'est un vrai nouveau volet, c'est une préquelle, Raon, t'as pu découvrir la planète Reach.
Effectivement, ça se passe donc avant le tout premier Halo. On va pas refaire tout le test, je vous invite à voir le test vidéo et le test écrit sur gameblog.fr, mais effectivement, pour moi, en tous les cas, c'est un des meilleurs volets qui s'est sorti depuis le premier, en fait. Même si ça reste profondément du Halo, c'est-à-dire que si vous aimez pas la série, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Mais au moins, ils ont pour une fois évité ce qui était pour moi des écueils sur le 2 et le 3, avec des scènes qui se répètent, qu'on a déjà vu 36 fois, genre les fils, la fin, c'était systématiquement la même fin.
Tellement.
Les histoires de Flood, il y en a plus. Je suis trop content. Et puis narrativement, c'est intéressant. Il y a une émulsion sur les personnages. Alors attention, hein, c'est pas non plus du grand, de la grande histoire incroyablement émouvante, mais ça se joue bien. Et puis il y a un vrai palier graphique parce qu'ils ont quand même bien révisé leur moteur. Donc une sorte de les échelles de combat se sont un peu décuplées et c'est agréable surtout de trouver un FPS de ce calibre-là qui ne joue pas sur les scripts autant que cette grande mode de tous les Call of Duty, Modern Warfare, etc., qui font tous un peu la même chose, quoi.
Mmh. Erwan, t'as aussi eu l'occasion de t'y essayer.
Bon, alors Julien, je t'avoue que j'ai un peu peur là.
Ah,
j'ai un peu peur parce que la dernière fois qu'on s'est croisé, c'était il y a un an et demi, je crois, c'était sur LCI, et j'avais osé, tu avais repris l'émission sur Gameblog, t'avais fait un lien et j'avais osé dire du mal de Metal Gear Solid.
tu as le droit.
Et alors j'étais allé voir sur vos forums, je m'étais fait mais pourrir la gueule, mais à un point.
Oh, t'inquiète, on se fait pourrir la gueule aussi.
Merci, c'était impressionnant. Non, mais bon, je rigole. Hein. Non, Halo, j'ai un petit problème avec Halo, c'est que j'ai l'impression d'être chiant dès que j'en parle.
Eh bien, merci.
c'est que, en fait, c'est, pour moi, c'est un jeu sans aspérité. C'est un jeu très, très lisse. C'est du blockbuster. C'est du blockbuster assumé et qui remplit son rôle de blockbuster, mais qui va jamais chercher dans l'originalité, à se mettre en danger et à surprendre. C'est ce que tu dis, c'est on joue à Halo. Et bien pour moi, le problème, c'est que oui, j'ai joué à Halo, à Halo 2, un peu à Halo 3, et j'ai du mal à. Pour moi, à la limite, il manquerait le PES de Halo. C'est pour mettre une espèce de concurrence comme ça et faire progresser les choses et pour aller chercher plus loin pour se mettre en danger et pour sortir des choses intéressantes, en fait.
Et finalement, cette concurrence, elle va peut-être arriver en interne, puisqu'on sait que c'est le dernier épisode de Bungie et que du coup là ça va être repris par une autre société, je crois, qui est en interne de Microsoft.
Oui, c'est alors je me plante toujours sur le chiffre, mais je crois que c'est 343 Industries, mais...
Voilà. Et alors ça va te faire plaisir parce que au cœur de cette société là il y a plein d'ex de Metal Gear Solid 4, dont Ryan Payton et compagnie, qui ont été débauchés, qui sont partis, qui bossent donc du coup sur le futur de la série Halo.
Là, du coup, je suis hyper impatient.
Mais grave.
Ils vont mettre des zombies.
Ça va être un Halo infiltration. Enfin, on verra. Mais du coup, ça va peut-être revitaliser un petit peu la série aussi pour les prochains épisodes. En tout cas,
c'est toujours sur ces licences et on peut faire les mêmes critiques sur les Call of Duty, les Modern Warfare et les choses comme ça. C'est des licences qui sont tellement importantes financièrement pour les entreprises qui les éditent. Qu'ils investissent énormément, mais en même temps ils ont besoin d'un retour sur investissement sûr et certain, ce qui fait que voilà, je peux pas dire du mal de Halo Reach. On peut pas, enfin ce serait
oui, enfin, si tu l'as très bien fait, c'est vrai que celui-ci prend un peu plus de risques que les autres quand même, parce qu'il y a aussi genre la scène spatiale ou des choses comme ça qui sortent vraiment de l'ordinaire de la série, mais c'est vrai que c'est timide. Voilà. Et on a parlé là, on aborde surtout la question du solo, mais faut pas oublier aussi que, à mon avis, ce qui est très important, c'est que pour eux, c'est aussi un jeu qui doit durer et que donc ils se focalisent beaucoup sur le multi. Et que de ce point de vue, toute considération de gameplay mise à part, parce que c'est un gameplay particulier, très lourd, avec de la gravité où on tire très longtemps avant de tuer quelqu'un, mais c'est juste incroyable quoi. Les features de communauté sont incroyables. Tu peux enregistrer tes replays, les balancer sur YouTube, les récupérer, télécharger les replays des autres, de tes potes, etc. Enfin, c'est juste super bien foutu et ça continue à évoluer depuis Halo 3. Et de ce point de vue-là, vraiment, personne ne les touche. En termes de features communauté, je n'ai pas vu un seul jeu qui était aussi complet et aussi bien fait et aussi bien pensé. Donc, bon.
C'est comme l'Espagne, une belle équipe, mais sans surprise. Ça ne peut rien dire. C'est complètement gratuit, c'est juste pour voir la gueule de Julien. Voilà. Donc voilà, c'est un bon jeu bien charté. Ouais. Qui effectivement,
ah oui, c'est un peu comme un Michael Bay, quoi.
Voilà. Tu sais, oui, c'est ça.
Tu sais quel film tu vas voir, tu n'étais pas déçu en sortant parce que tu as eu 12 explosions et des effets spéciaux à gogo. Voilà.
C'est la bonne comparaison, effectivement.
D'ailleurs, qui a cartonné, hein, Laurie.
Ah bah oui, plus de 100 millions de dollars en.
200 millions de dollars
en 24 heures, ouais. Ça va, c'est bien.
Oui, je me fais pas de bébile pour leur rentabilité, ça.
Non, c'est sûr. On parle d'une autre série aussi, mythique, hein, du jeu vidéo, qui elle aussi a connu parfois un destin un petit peu plus contrasté, en tout cas qui a osé prendre des partis pris différents ces dernières années. Il s'agit de la série des Metroid, et qui revient cette fois-ci avec une nouvelle équipe, la Team Ninja, Metroid Osorem, c'était au début du mois de septembre. Tiger, ouais. Pareil, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de cette nouvelle approche des Metroid?
Je suis comme AHL, j'ai bien kiffé. La Team Ninja a vraiment fait du super boulot pour redynamiser la série, en fait. Avec Metroid Prime, les épisodes précédents, on était dans du FPS, donc maintenant on a une vue à la troisième personne, et en fait moi le jeu m'a rappelé Super Metroid, qui est pour moi le meilleur des Metroid, celui que j'ai
super
adoré.
Nintendo.
Exactement. Ouais. Malgré tout, il y a encore des passages en vue à la première personne, hein, parce qu'en fait tout se joue selon le positionnement de ta Wiimote. Tu tiens la plupart du temps ta Wiimote comme une manette NES, voilà. Et si tu pointes vers l'écran ta manette, tu passes en mode subjective. Donc voilà, un mode de jeu vraiment intéressant, voilà, le switch comme ça. Et puis l'ambiance Metroid qu'on retrouve, un gameplay très dynamique, on sent vraiment la touche Team Ninja.
Alors très moi bien. J'aurais quand même un petit bémol, c'est au niveau de l'esthétique. Oui. Ça veut dire que bon, on va pas revenir sur les petites carences technologiques de la Wii. Finalement, bon, on s'y fait et ça passe. Le jeu est plutôt beau pour de la Wii et puis il y a de superbes cinématiques. En revanche, esthétiquement parlant, même si ça reste forcément très subjectif, il y a des ennemis complètement bariolés qu'on dirait sortir d'une fête foraine qui te sortent, je trouve, un peu de l'ambiance
Metroid.
C'est marrant
que tu dis ça maintenant et pas sur Halo, parce que dans le genre ils sont pas mal.
Mais en Reach, j'ai trouvé un peu moins. C'est
un peu moins.
Un peu
plus
uniformisé.
Il y a plus de gris et moins de rose,
C'est ça. Et alors là, t'as des monstres avec des langues violettes
mais
qui font 350.
En même temps, c'est le design de la série depuis toujours. Hein. Les monstres ont toujours été violets, ont toujours eu des tronches pas possibles.
C'est un peu monstre plante, quoi.
Ah, c'est vrai, mais c'était cool les monstres plantes.
Oui, c'est certain, mais bon.
Non, le seul truc qu'on pourrait reprocher, en fait, moi, qui m'a un peu fatigué, c'est qu'il y a vraiment une volonté de scénarisation dans ce nouveau Metroid, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. C'est vraiment de la série Z. Après, moi, ça me fait marrer, donc je profite, mais c'est pas super.
Samus, elle est sous l'exomile, quoi. Elle a envie de se tirer une balle pendant toute
l'aventure. C'est la mélancolie,
À la fin du jeu, dans le premier Metroid, on découvrait que c'était une femme. Là, on découvre qu'elle se tire une balle. Je ne comprends pas. Pour un héros, c'est. Enfin bon, peut-être. Pourquoi pas.
Et Snake dans MGS4. Là.
Merci. Tu veux savoir la vérité? C'est que pendant que j'étais en train de le dire, j'y pensais. Je me disais, pourvu que personne ne le souligne. Eh bien, si, tu m'as snipé. Ok, merci Tiger pour cet avis. Donc, Metroid Osorem, vous l'aurez compris, néanmoins, qu'on recommande chaudement. C'est un très bon jeu sur Wii. On va partir dans un autre style d'univers, mais toujours avec une grande série. Décidément, ce mois de septembre, c'est un peu le revival des jeux mythiques de l'époque Super Nintendo aussi, avec Castlevania qui
tout
revient. Castlevania, Lord of Shadow.
Alors pour moi, c'est le seul jeu du mois.
Ah
donc c'est un jeu tellement généreux.
C'est ça.
Tellement
c'est
généreux.
L'épithète qui lui va bien. Quoi.
Voilà, tout à fait. Donc il a été développé par une équipe externe à Konami, une équipe espagnole qui s'appelle Mercury Steam, et qui est très talentueuse, et qui a fait d'abord un moteur assez impressionnant avec des graphismes vraiment très 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 beaux. Et surtout au niveau design, c'est une avalanche pendant tout le jeu. De gameplay différents, d'environnements tous plus beaux les uns que les autres, de petits clins d'œil aux jeux vidéo, au cinéma, des vrais hommages parfois.
Labyrinthe de Pan.
Ouais, il y a du Shadow of the Colossus, des hommages
Seigneur
à Portal.
Des Anneaux.
Portal, ouais.
Alors ça c'est surréaliste. Un hommage à Portal dans un Castlevania,
il est bien caché, cela dit.
Ouais. Pas tant que ça. Hein. Il est quand
enfin,
même
non, je veux dire, c'est dans un parchemin que tu récupères. Ouais. Tout le monde ne récupère pas tous les parchemins dans un jeu.
Pour moi, c'est comme les thermos.
C'est le mec des thermos qui t'en parle.
Non mais alors voilà, tu fais bien de parler de ça parce qu'effectivement c'est un trip old school. Le jeu référence pour ce nouveau Castlevania, c'est Castlevania 4 qui est personnellement mon épisode préféré.
L'épisode de la Super
Nintendo.
Voilà,
l'épisode de la Super Nintendo qui tuait tout à l'époque. Vraiment, c'était génial. Donc, c'est volontairement très action. Hein. On n'est pas du tout dans les Metroidvania, c'est-à-dire tous les Castlevania récents où on explore un château gigantesque avec des salles secrètes, plein d'éléments RPG, etc. Cela dit, c'est vraiment un Castlevania. Ils ont réussi à garder vraiment l'esprit Castlevania, toutes les traditions Castlevania avec les boss gigantesques, avec le bestiaire bien connu, donc avec les lycans, les vampires, mais aussi les armures spectrales, ce genre de choses.
Avec les forces et les faiblesses, etc.
Bien sûr, un système de combat. Donc en gros, vraiment, de prime abord, on a affaire à un God of War. Donc c'est très similaire à God of War dans le système de combat, etc. Mais déjà, c'est très bien. C'est un très bon système de combat avec des combos à débloquer à gogo, mais du début à la fin de l'aventure et même à la fin, t'as pas fini de tout débloquer. Intéressant à jouer parce que t'as un système de magie qui te permet de vraiment d'avoir des subtilités en fait selon les monstres que tu.
Et qui appelle au choix aussi d'ailleurs.
Ouais, parce que tu dois faire des vrais choix.
C'est tout bête, c'est la même énergie pour remplir tes jauges de magie de lumière ou de magie de l'ombre, donc c'est à toi de choisir un petit peu ce que tu vas jouer. Donc c'est intéressant si ça introduit de la stratégie.
Et ce qui est génial, c'est que c'est utilisé donc dans le système de combat, mais aussi dans le reste du jeu. Et donc évidemment, c'est un Castlevania, donc c'est pas que un système de combat, c'est pas que un God of War, c'est aussi un jeu d'exploration, de plateforme, et avec aussi pas mal d'énigmes, etc. Donc c'est ultra varié. Il y a des zones de respiration tout le temps. T'es jamais en fait comme dans un jeu d'action. Je dirais même quand God of War qui finit par être répétitif comme tout beat the ball, etc.
Il y a beaucoup de respiration dans God of War aussi, ouais, avec beaucoup de
mais alors là encore plus, je trouve. C'est-à-dire au bout d'un moment, ça. Je me fais chier dans God of War, moi, et surtout dans le dernier. Mais là vraiment, t'as des respirations tout le temps et t'es tout le temps surpris en fait, et tu ressens tout le temps, comme je le disais au début, cette générosité des développeurs qui ont balancé des tas de bonnes idées,
décors, d'ennemis, etc.
On parlait de clin d'œil, il y a une phase Shadow of the Colossus, clairement. Alors on va dire c'est une repompe totale et tout. Oui, moi je vois ça comme un hommage personnellement. On sent que les mecs ont des références et qui se sont fait plaisir en fait à les balancer, qu'ils ont voulu faire plaisir surtout en les balançant. Donc le jeu n'est pas dénué de défauts, il est assez old school. Les caméras fixes sont assez chiantes de temps en temps, c'est des caméras fixes donc comme dans God of War. C'est assez difficile, assez frustrant parfois.
C'est pas les caméras qui m'ont gêné, c'est certains passages qui sont mal réglés en termes de gameplay. Où il y a des choses où quand tu commences à te dire mais je comprends pas, j'aurais pas dû me faire avoir à tel endroit, c'est qu'il y a un petit souci de réglage, et ça il y en a quelques-uns. C'est pas non plus, alors sur le moment tu pestes, une fois que tu l'as passé tu redécouvres et tu reviens tout de suite.
T'as tellement envie d'avancer tout le temps, parce c'est que t'as envie de t'en reprendre à chaque fois plein la gueule, et tu t'en reprends à chaque fois plein la gueule. Donc c'est pour moi le jeu du mois, et j'ai adoré, et c'est un vrai Castlevania, et ça c'est très important. Les mecs, pardon, juste pour conclure, les mecs ils ont été très respectueux, voilà, et en même temps ils ont réussi à innover, mais tout en revenant toujours sur le chemin pour faire plaisir aux fans.
C'est surtout le premier vrai Castlevania en 3D qui fonctionne très bien.
Voilà.
Et si vous voulez découvrir Julo en train de pleurer à chaudes larmes sur l'hommage Castlevania, eh bien je vous invite à voir ou revoir la vidéo test de Castlevania où Julo est au bord des larmes. Trop d'amour.
Julo maintenant.
On dit Julo forever. voilà. Et puis forever. Comme je suis à côté de toi et que je t'écoutais vraiment avec les yeux de Chimène Badi, je découvrais que depuis le TGS, t'as toujours pas remis de vis à tes lunettes.
Je travaille trop.
Fais attention, mon ami, ton verre va tomber. Voilà, petit aparté.
Maintenant, tout le monde va voir que ça.
C'est ça. Zoomons pour ceux qui ont la vidéo. Allez, on va enchaîner avec un tout autre univers, celui coloré, bucolique et sympathique et tellement Disney, de Kingdom Hearts Birth by Sleep, qui sortait sur PSP et Tiger. Une fois de plus, la force a été dans ta main.
Ouais, c'est vraiment un très bon épisode. Hein. Là, il y a quelques temps, on a appris que Nomura comptait pas sortir un Kingdom Hearts 3 avant 2012, voire plus loin.
Qui finisse Versus 13 déjà.
Vu qu'il est sur Versus 13, je sais pas quand est-ce que Kingdom Hearts 3 arrivera. Mais c'est
pas pour l'anniversaire de la série en tout cas.
Non, en tout cas pas pour l'anniversaire. Mais ce n'est pas si grave. Étant donné que ce Kingdom Hearts, c'est vraiment, on peut le considérer comme un épisode à part entière. C'est pas un spin-off comme les épisodes DS qui étaient un petit peu décevants. Celui-ci, en fait, il se passe avant le tout premier épisode. Et c'est vraiment un épisode à part entière. Les fans l'appellent l'épisode 0. Parce que vraiment, il reprend les bases.
Et comme tu disais si brillamment dans l'émission Gameblog sur Directstar, les fans l'appellent 0, mais c'était pas un jeu 0. Attention.
Pas celle-là, elle était
très appréciée.
Elle était magnifique. Non, et puis il y a toujours. On incarne donc des personnages maintenant qui font partie de la mythologie Kingdom Hearts. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de moins en moins de persos Final Fantasy en fait maintenant, parce qu'il y a vraiment une grosse mythologie Kingdom Hearts. On voyage toujours dans les univers Disney. Là, donc là, on se focalise sur les univers des princes. princesses, Blanche-Neige, la Belle, Cendrillon.
Ça va être tellement
mais
magique.
Il y a aussi Stitch, par exemple. Oh. J'adore Lilo et Stitch. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a une très bonne durée de vie dans ce Kingdom Hearts, parce qu'en fait, on incarne trois personnages et c'est environ 15 heures de jeu par personnage. Donc voilà, pour un jeu PSP.
C'est
en
un
plus,
jeu pour Erwan.
Voilà, exactement. Passe, pour jouer dans le métro ou dans le train.
Plus de 70 heures sur Dragon Quest.
Exactement. Ouais.
Et bon, j'ai du mal avec Disney, enfin les RPG japonais avec du Disney. Je suis désolé, hein, je vais pas revenir sur les débats du premier Kingdom Hearts, c'est ridicule, quoi. Mais bon, voilà, moi c'est.
Bah c'est soit ouais, soit on est dans l'ambiance ou pas. Faut vraiment.
Exactement.
Ça, je comprends tout à fait. Et puis, vraiment, pour le coup, il y a des passages qui sont très, très gnangnan. Mais le gameplay est tellement dynamique, vraiment profond. Donc, on s'amuse vraiment bien. Et c'est vraiment un excellent épisode. Et si vous êtes fan de Kingdom Hearts, il vous le faut. Parce qu'on apprend plein de choses sur le scénario, qui est un peu, parfois tiré par les cheveux. Mais c'est un épisode vraiment essentiel.
Et bien, si vous aussi, vous aimez Winnie l'ourson, et bien,
Winnie l'ourson qui est présent, d'ailleurs, et sa bande de...
oui, voilà, Julien, les yeux.
Mais attends.
Bien joué,
et tu me permets de placer une théorie sur Winnie l'ourson et ses amis, c'est que pour moi, Winnie l'ourson et ses amis représentent tous un type d'addiction à la drogue.
Attends, ça c'est vachement intéressant.
Parce que si tu réfléchis à tous les personnages, c'est tous voilà, des symptômes de certaines drogues. Winnie l'ourson est tout le temps un peu, il plane. Bourrique a toujours perdu sa queue. Tibro...
Attends, c'est quelle drogue qui te fait perdre ta queue? Je comprends pas.
Je sais pas, mais
c'est plutôt Alzheimer. Les...
Non, mais tu vois, par
c'est
exemple,
tous des pathologies.
Non,
en
mais
fait.
Tigrou est toujours à donf. Ouais, il saute tout le temps.
Il est sous-en fait.
Coco Lapin est complètement paranoïaque. voilà, et Porcinet bégaye. Si tu réfléchis, voilà, tu vas regarder sur Wikipédia. Voilà. Regardez les syndromes des différents de toxicomanie, c'est chaque personnage correspond à un type de drogue.
Oh, voilà. Merci Tiger. Oh.
Exactement.
Bon, et bien après cet univers Disney. Ben, on sait hein, que Disney de toute manière glisse toujours dans ses dessins animés des petites choses un petit peu, des petites pépites à découvrir parfois sur une seule image dans le film.
Et oui.
Et bien tu as décrypté peut-être toute
exactement
la mythologie de Winnie l'ourson. On va passer, on va te libérer du coup Tiger, merci pour tes avis éclairés sur tous ces titres. Sur Civilization 5, le jeu qui lui aussi crée des addictions visiblement, Erwan.
Ah mais on était tout, je pense que tous les joueurs de Civilization sont au courant de ça, enfin depuis 93 si je ne m'abuse, avec le premier Civilization c'est la première fois où je me suis rendu compte qu'une nuit pouvait passer en une demi-heure et on se met à 20h sur le jeu, c'est et le jour se lève bizarrement, enfin un truc et c'était et voilà, on est dans Civilization 5 et ça reste le cœur du jeu est là, le cœur du jeu c'est appuyer sur la touche tour suivant. C'est là où c'est ce moment-là qui est le plus important.
Le moment de la pression.
C'est le moment où est-ce que j'ai bien pensé à tout. Et puis alors au bout d'un moment, on passe dans des phases où on a envie d'aller plus vite, donc on passe sur des tours suivants. Et puis à un moment, j'ai oublié de modifier la configuration. Enfin voilà, c'est.
Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'univers de Civilization, on situe juste un tout petit peu.
C'est un jeu de stratégie, donc au tour par tour, traditionnel, dans lequel on va vivre et suivre une civilisation de notre choix, peut-être les Français, les Américains, les Incas, peu importe. On l'a choisi au départ et puis le but c'est effectivement de l'emmener le premier vers la conquête spatiale, donc depuis les premiers âges avant même l'invention de l'agriculture et tout ça, développer tout ça, les systèmes politiques, la religion, la culture, etc. et réussir à réunir une des conditions de victoire au bout de la partie qui peut être soit culturelle, soit militaire, soit économique, au choix de ce que le joueur aura décidé et de s'en tirer le mieux possible.
Et on peut choisir donc des grandes figures de l'histoire.
En fait, chaque civilisation est liée avec un grand personnage qui est censé représenter cette civilisation. Donc Erwan joue George Washington pour les États-Unis par exemple.
Mais justement, il le commence moins 5000 ans avant Jésus-Christ.
Oui, mais c'est juste en fait un avatar.
C'est ça.
Un avatar, ouais, voilà. D'accord. Il représente la civilisation en fait.
Du coup, là, t'es dans les années 2000 et tu te fights contre Ramsès II. Tout
exactement
va bien.
Exactement. Exactement. Non, mais bon, vu que j'ai construit la cité interdite à New York et que je suis en train
ça
de faire
aussi,
la tour Eiffel à Washington et.
Salaud voilà,
parce que tu construis des merveilles, tu construis toutes les grandes merveilles de l'humanité et le but c'est aussi de les construire en premier parce qu'une fois qu'une merveille est construite, il n'y a plus d'autres civilisations qui peuvent la construire, elle t'apporte des bonus, etc. Mais pour revenir sur cet épisode-là en particulier, il y a quand même un grand changement majeur depuis le tout début de la série, c'est qu'ils ont changé la forme des cases qui était à la base des rectangles et qui sont maintenant des hexagones, mais c'est très important parce que c'est lié aussi avec le fait qu'on ne peut plus accumuler des unités sur une case et que donc se développe tout un aspect combat qui ressemble plus au wargame qu'au gros bourrinage en fait habituel dans un
simulation. Avant on pouvait stacker toutes ces unités, on avait une armée qui prenait une case et on avançait avec son armée. Maintenant pour avancer et envahir le voisin, c'est un tout petit peu plus compliqué quoi, parce que on se fait démater par les artilleries qui sont postées à l'intérieur des villes. Si tu prépares pas ta stratégie, ça devient un vrai wargame, même si moi c'est pas évidemment, je ne suis pas de ceux qui favorisent la stratégie militaire, parce que civilisation, c'est il y a tellement d'autres choses sur les doctrines, sur la culture, sur l'arbre scientifique de civilisation, c'est quelque
la
diplomatie aussi. Et donc c'est vrai que se concentrer sur l'aspect guerrier, même si c'est toujours un plaisir surtout quand on développe l'arme nucléaire avant ses voisins ou ce genre de petites choses, mais c'est on cherche plutôt des solutions alternatives, des moyens de développement. Et franchement, c'est un jeu qui moi me rend complètement autiste, c'est-à-dire que je suis devant mon écran, on peut me parler, je n'entends pas. Alors qu'en plus, c'est du tour par tour. On n'est pas. C'est ça qui est magique, c'est du tour par tour.
Temps, ouais.
On a son temps. Enfin, on peut aller chercher un coca, tout ce que tu veux. On a tout le temps. Mais on est complètement fasciné par ce qui se passe. Et c'est vraiment incroyable. Il y a une espèce de recette qui est là depuis le début. Et là, ce cinquième. Bon, moi, j'ai un peu raté le passage du quatrième épisode. Donc les évolutions récentes, je vois pas. Mais c'est exactement la même chose quoi. Je deviens complètement fermé à toute autre chose et j'ai envie de faire progresser ma civilisation.
Et tu crées des pathologies à la Winnie.
Voilà, sans doute.
D'autres.
Voilà. D'autres.
Ça sort sur PC, bien évidemment, c'est un des grands jeux du PC. Ça sort sur Mac aussi ?
Je ne crois pas.
D'accord, donc ça reste.
Je suis pas sûr, mais je ne crois pas.
En une tous exclusivité les cas, pas pour PC pour le moment.
Voilà, et c'est surtout, au bout d'un moment, tu sais, ces grandes séries qui ont trouvé un peu la formule magique dès le départ, finalement, comme ce que tu expliquais, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour le faire évoluer, en dehors de l'aspect graphique, qui est aussi très réussi sur celui-ci. Et pourtant, là, ils ont vraiment réussi à relancer des trucs. Alors, il y a certaines choses qui sont un peu escamotées, comme les religions. Mais qui se retrouve ailleurs, enfin, mais ils ont vraiment réussi à faire un épisode qui tient super bien la route avec cette nouveauté du combat qui change vraiment tout. Et je m'y attendais pas, moi perso, parce qu'ils arrivent à refaire un civilisation de ce
il est quoi. Il est pas facile, enfin bon, moi je sais que j'ai une expérience difficile, c'est au bout de 6-7 heures de partie, donc avec j'ai une bonne avancée scientifique et tout ça, et là il y a Ramsès II qui m'en veut, et on est en 1980, la fin du jeu se rapproche, parce que il y a 2050 qui est l'âge fatidique si on n'a pas
rempli. Pas 2012
non c'est 2050 sauf quand tu joues les Mayas peut-être, je sais pas. Mais je me fais démolir par Ramsès II. C'est une
pyramide dans ta face
Il a trop de villes, il s'est trop bien développé. Donc en fait, c'est le truc frustrant, c'est que t'as joué 8 heures et tu peux avoir toutes les sauvegardes que tu veux. Et là, je sais que je vais me faire démolir la tête, quoi.
Écoute, en tout cas, Civilization 5 de Sid Meier prouve que c'est encore le meilleur. Mon Dieu. C'est ça, voilà. On va changer, je vous le propose en tout cas, radicalement d'univers après la stratégie. On va partir dans des villes bien urbaines et on va partir retrouver Spider-Man qui revient dans un épisode Shattered Dimensions qui justement lui aussi mixe un petit peu les époques puisqu'on peut naviguer à travers le temps.
On peut naviguer surtout à travers les dimensions de Spider-Man, c'est-à-dire que pour les fans de comics, il y a le Spider-Man, le Amazing Spider-Man, qui est le premier. On a le Ultimate Spider-Man, donc qui est le reboot des années 2000 par Bendis. Enfin bon, pour ceux qui connaissent, c'est
avec
assez formidable.
Avec un jeune Peter Parker. Ouais.
Il revient dans le monde moderne. Et après, en fait, il y a Spider-Man noir, qui est une espèce d'alternative dans les années 20, avec moins de pouvoir, plus d'infiltration avec des gangsters et des choses comme ça. Et il y a le Spider-Man 2099, quelque chose dans le genre, où c'est bourrin, c'est hyper action avec des évolutions technologiques partout, etc. J'avoue que quand j'ai mis la galette dans la Xbox, je m'attendais réellement à tester la bouse du mois. La licence Spider-Man n'a pas été très bien servie ces dernières années, on va le dire. Et alors, c'est pas, pour moi, c'est pas un grand jeu. C'est pas un jeu mémorable dont je me souviendrai dans un an, même pas. Mais franchement, ça a été une très très bonne surprise. C'est-à-dire, je m'attendais à jouer une demi-heure juste pour voir comment c'est. Et 6 heures plus tard, j'étais encore dessus. Et il est ample, il est assez généreux quand même, parce que les niveaux sont grands. Et il est varié. Il y a même des. La partie. Donc, on passe entre chaque dimension. Chaque niveau fait entre un peu plus d'une heure de jeu, et on fait à chaque fois chaque Spider-Man avec des missions différentes. Et par exemple, le Spider-Man noir, on est dans un espèce de plagiat, mais plutôt agréable, de Arkham Asylum. C'est moins bon évidemment que Batman, mais voilà, ça fait plaisir. Et franchement, alors c'est vrai que pour un prix de jeu next gen, ça fait peut-être un peu mal au cul de claquer 70€ pour ça.
On peut le revendre en
mais voilà, c'est vraiment un Spider-Man très agréable, et pour les fans de Spider-Man, c'est agréable d'avoir enfin un jeu qui tienne la route avec ce personnage-là.
Écoute, oui, puisque c'est comme tu le soulignais, il a eu quand même des petite histoire récente un peu compliquée sur console, effectivement. On change encore une fois d'univers, là, ça s'accélère là, avec cette fois-ci de la Formule 1, Traz. Et oui. Ton jeu du mois absolu, voire peut-être même ton jeu de plusieurs mois, c'est Formula One 2010.
C'est le jeu qui va le faire attendre jusqu'à GT5 en fait.
Voilà, exactement. Oui, pour moi jusqu'à présent c'est le jeu de l'année en attendant GT5 effectivement. Qui sortira le 3 novembre. Et donc, effectivement, fin 2010, pour moi, c'est quand même une sacrée révélation. Et pas que pour moi, d'ailleurs, parce que Julo et Poufy ont adoré aussi. On y a joué pas mal à la rédaction.
Poufy qui a toujours un tournoi, on le rappelle, hein, avec un temps hallucinant. A priori, il est déjà fini. Il est toujours premier. Ouais, oui. On connaît Poufy. Il le relancera pour faire des hits sur son blog.
Exactement. Ouais. Et donc, ce F1, donc réalisé, développé par Codemasters, donc, alors qu'avant, la licence était chez Sony, et bien, c'était une belle opération de la part des dirigeants de la Formule 1, parce que là, ils ont tapé dans le mille. Hein. Codemasters, on les connaît, ils ont réalisé des titres hallucinants, Grid notamment, entre autres.
Et donc, longue histoire sur les jeux de course.
Sur les jeux de course, effectivement, Colin McRae, etc., enfin, tout le monde les connaît. Et ce F1 2010, bah, pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. Il y a encore quelques défauts évidemment, notamment au niveau de l'IA qui est un peu bizarre par moment, avec pas mal d'incohérences dont j'ai parlé dans le test. Mais sinon tout le reste c'est vraiment extraordinairement bien foutu. Le moteur 3D est parfait,
c'est super
quoi.
Rapide.
Les grandes jeans, il y a une impression de vitesse qui est extraordinaire. Les conditions météo sont parfaites aussi, avec la pluie sur la visière. Qui sont vraiment extrêmement bien rendus. Évidemment, il y a tous les circuits des championnats du monde. Il y a un mode carrière qui est quand même le gros morceau du jeu, qui est super bien foutu. Donc on peut choisir entre 3, 5 et 7 ans. Alors pourquoi seulement ces années-là, je ne sais rien. Mais en tout cas, si vous vous lancez dans une saison, je peux vous assurer que vous en avez vraiment pour facilement un mois, si vous faites tout bien, vraiment si vous prenez des week-ends longs notamment, donc avec les essais libres, les essais qualifs et la course. Et je vous parle même pas de faire la course à 100% hein, du temps, parce que là évidemment, voilà, si vous faites un circuit où il y a 70 tours comme à Monaco,
c'est long.
Là, c'est sûr que ça peut être extrêmement long, donc avec les arrêts stand que vous pouvez prévoir aussi dans certains niveaux de difficulté, les changements de pneus que vous décidez aussi à certains niveaux de difficulté, le type de gomme que vous choisissez, etc. Enfin bon, vous décidez vraiment de tout. Le mode carrière est très très bien fait. Vous avez votre agent qui est là pour vous épauler, etc. Vous dire voilà, on reçoit un contrat de telle écurie, parce qu'au départ vous commencez dans une petite écurie, et donc vous pouvez évoluer comme ça tout au long de ces années de carrière. Et vraiment, enfin, ce qui vraiment ressort absolument d'emblée, c'est l'accessibilité, parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté, mais franchement tout le monde peut y jouer sans problème. Il y a le côté graphique qui est extraordinaire. Vraiment là, c'est une grosse claque dans la gueule.
Les conditions météorologiques,
voilà, la pluie
changeante en temps réel,
voilà,
la pluie
météodynamique, effectivement. Et puis il y a surtout le côté multi aussi, qui est très très bien fait. Hein. On peut jouer jusqu'à 12 en multi, et là effectivement, même si vous n'êtes que deux à y jouer, le jeu se complète la grille de départ avec 10 autres pilotes.
D'accord.
Donc c'est vraiment, vraiment complet, la grosse claque, c'est très complet.
C'est généreux, comme dirait Julo.
Exactement. Et Julo qui veut rajouter un truc.
Ouais, juste un tout petit truc, et ça, je me fais un peu la voix de Poufy, c'est que quand tu joues en multi, c'est très bien parce qu'il est très 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 sévère le jeu sur les touchettes, les virages coupés, etc. Et donc du coup, c'est probablement l'un des jeux de bagnole dans lequel il y aura le moins de triche en ligne. Donc ça, c'est intéressant aussi.
Alors, notamment pour faire les chronomètres,
juste
effectivement.
Il n'y a pas exactement cette voix quand même. Si tu veux faire la voix de Poufy,
c'est trop dur, je peux pas. Il est inimitable.
C'est ça. Mais voilà. Là, néanmoins. Ouais, excuse-moi.
Non, pas de souci, vas-y.
Bah, là, j'ai envie de faire l'instant polémique, l'instant versus. Puisque moi, hop, je vais me faire la voix de Cyril Drevet. Je vais pas essayer de l'imiter. Alors, les gars. Cyril Drevet dans l'excellent Versus qui a repris la semaine dernière,
fait.
D'ailleurs, que vous retrouvez désormais tous les mardis. Saison 2, Reloaded, comme le dit Julo, qui a beaucoup changé. Où désormais, il y a du rétro. Et puis, c'est vous aussi qui pouvez faire les débats. Lui soulignait, lui qui connaît bien la Formule 1, etc., que la prise en main était pas parfaite. Mais alors là, j'ai envie de dire débat, quoi.
Oui, non, mais je pense que, enfin, je sais pas dans quel mode de jeu il a joué, parce qu'on a quand même le mode facile, intermédiaire, difficile.
Alors que Tiger est en train de décéder.
Et expert. Oui, qu'est-ce qui t'arrive?
Pourquoi?
Non, rien, tout va bien. Je sais pas pourquoi il dit ça, parce que nous ici, donc on est quand même trois à y avoir joué de manière assidue avec Julo et Poufy. Ouais. On trouve pas qu'effectivement il y a un souci de prise en main, bien au contraire, parce que comme j'ai souligné tout à l'heure, il y a 4 niveaux de difficulté. Donc effectivement, selon ces 4 niveaux de difficulté, on aura vraiment un rendu, enfin une sensibilité complètement différente. Vraiment, vous jouez en mode facile, ça n'a absolument aucun intérêt, les freinages sont automatiques, etc., enfin tout est automatique, aucun intérêt. En intermédiaire, ça commence déjà à être plus intéressant. Par contre, en mode difficile expert, là faut s'accrocher. Et ça devient extrêmement pointu, réaliste, etc.
C'est ultra, exactement, pointu et réaliste, parce que moi j'ai l'habitude de pousser d'enlever les aides au pilotage quasiment au maximum sur les jeux de bagnole. Et là, en l'occurrence, je me suis remis en intermédiaire, et pourtant c'est super réaliste déjà en intermédiaire. Et le pilotage est incroyable parce que tu progresses à chaque tour que tu fais réellement. Quand on faisait des chronos à la rédac, tous les trois on se battait sur Monaco ou sur d'autres circuits, il y a un progrès constant dans ta façon d'aborder le circuit, etc. C'est super réaliste. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, je crois qu'on l'a postée sur Gameblog.
Oui, on voit un parallèle entre une vraie vidéo et
la réalité à gauche, le jeu à droite. Alors déjà, visuellement, c'est superbe, etc. Mais surtout, c'est réaliste au point que tu fais les mêmes chronos en fait dans la réalité que dans le jeu. C'est vraiment et ça, c'est difficile à obtenir dans les jeux de bagnole. Donc ça, ils l'ont réussi et c'est réaliste, c'est beau, c'est cool à jouer et tout. Mais il y a juste les collisions aussi. T'as pas parlé des collisions.
Oui, c'est ce que je disais. L'IA était un peu bizarre les collisions. Mais les collisions changent aussi en fonction des niveaux de difficulté. Donc là aussi, il faut un petit bémol, parce que c'est pas tout à fait la même approche selon qu'on joue en intermédiaire facile et en difficile expert. Vraiment, ça change.
Eh bien, il nous restera donc à avoir un beau duel, un versus contre Cyril et toi, Traz. Vous ferez une belle course et on la filmera et on verra donc qui est le maestro de la Formule 1. En tout cas, merci pour ce joli point sur F1 2010 qui sort partout.
Qui est sorti le 23 septembre dernier.
Exactement.
Et qui a battu Allorich en Angleterre.
C'est pas vrai.
Bon, ceci dit, c'était sa semaine de sortie à F1 aussi.
D'accord.
Ce qui est peut-être un peu rare. Mais déjà, c'est qu'un
beau succès quoi, pour un jeu de Formule 1. On conclut cette zone extensive avec un titre qu'Erwan nous ramène du côté de Steam. C'est un titre qui fait peur.
Non, ça s'appelle Amnesia. Franchement, je conseillerais déjà en introduction à tout le monde la démo sur Steam. Et il y a une démo. Il faut jouer à la démo. À la limite, j'ai presque pas envie d'en trop en parler, parce que une fois qu'on a touché à cette démo, on a envie d'aller plus loin. C'est impressionnant. Il s'agit d'un jeu en vue subjective basé sur l'univers de Lovecraft, plus précisément sur l'appel de Cthulhu, parce que on retrouve le jeu de rôle issu de Lovecraft. C'est un jeu donc en vue subjective où on joue quelqu'un qui a volontairement perdu la mémoire, c'est-à-dire que on a le personnage, il se souvient plus trop de rien, il est là dans des couloirs sombres, il sait pas ce qu'il fait là, et il retrouve des notes de lui-même adressées,
il se parle à lui avant
d'avoir perdu la mémoire, et on apprend qu'il a perdu la mémoire volontairement, et son moi précédent lui donne une mission, c'est se débarrasser d'un être bizarre, et là c'est l'horreur, mais c'est la première fois dans le jeu vidéo où on a réussi à représenter ce que que Lovecraft aimait beaucoup, qu'il appelait l'indicible. Ouais. C'est l'indicible, c'est vraiment ce qu'on ne voit pas, ce qu'on entend à peine, et on sait que c'est là. Ouais. Et en fait, c'est aussi une des premières fois dans le jeu vidéo où et c'était une caractéristique très importante dans l'appel de Cthulhu pour ceux qui ont joué, c'était la santé mentale. et là, on doit faire très attention. C'est les monstres, il faut pas trop les regarder. Ouais. D'ailleurs, il faut fuir parce qu'on n'a pas d'armes. Oui, c'est en vue subjective, mais on n'a pas d'armes. Et il y a des énigmes, il y a des choses comme ça. On progresse, on joue beaucoup avec la lumière, où il faut jamais rester trop dans le noir parce que c'est très très mauvais justement pour sa santé mentale. Et en fait, plus on devient fou, plus l'écran devient bouge, se déforme. Et franchement. Moi déjà jouer à Condemned c'est une horreur absolue pour moi mais jouer à Amnesia un casque sur les oreilles et dans le noir, je vous jure, c'est des...
Je suis super content que tu parles de Condemned parce que franchement ce jeu là est sous-estimé. Ouais. Niveau c'est flippette, vrai. Franchement,
voilà. Moi, c'est
hallucinant. Vraiment hallucinant. Je suis tout à fait d'accord.
Et Amnesia, franchement, c'est cauchemar assuré. Moi je dois vous avouer, j'ai beaucoup de mal à avancer parce que ça me fait peur.
C'est voilà. Disponible sur Steam, c'est petit prix,
J'ai un peu peur de dire une connerie. D'accord. Sur le prix, c'est pas un prix maximum, mais de mémoire c'était 15€, mais je pense que je me trompe, peut-être c'est peut-être 30. Enfin, voilà.
Et c'est un jeu indé, ils avaient déjà fait quelque chose avant?
Ils avaient oui, ils avaient fait des choses avant, mais je ne sais pas, c'est un studio qui avait déjà fait des choses.
On va le retrouver, voilà, on le mettra sur
mais en tout cas la démo, jouer à la démo, ça c'est obligé.
Il est dispo sur Mac ou tu
sais? La question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure.
Je n'en sais rien, je joue pas sur Mac, donc je ne sais pas.
Voilà. Le truc de la santé mentale, c'est marrant, ça me fait penser à un jeu qui était excellent sur GameCube,
Eternal Darkness.
Eternal Darkness. Ouais, voilà,
c'était vraiment le même principe avec la réalité qui se déformait. Plus t'avais peur, plus il se passait des choses.
Mais là, il y a ce côté.
Tu as dit, ça faisait pas super peur.
Évidemment, ouais. Elle redescend. Enfin, tu peux pas la gagner là.
Si tu la gagnes en avançant dans l'histoire, en fait, d'accord, ça permet de revenir parce qu'autrement.
Parce que dans le jeu de rôle,
toi-même fou.
Dans le jeu de rôle d'origine, c'est très très difficile de regagner de la santé mentale quand t'as été écorné par quelque chose et que tu commences à devenir un peu taré. C'est très très difficile.
Et on revient à cette perception dans l'appel de Cthulhu, c'est que, enfin, il y avait des maîtres du jeu qui n'avaient pas cette façon de voir, mais c'était la façon de voir de l'appel de Cthulhu, c'est les personnages sont impuissants par rapport aux forces qui sont face à eux. Et là, voilà, on n'a pas d'armes, de toute façon, les monstres, il faut courir et essayer de se cacher, mais pas trop longtemps parce qu'on est dans le noir quand on se cache, et là, ça fout les chocottes. Voilà.
Amnesia, en tout cas, ça donne clairement envie. Merci, Erwan, de nous comme ça, de mettre à la lumière ce jeu qui joue avec les ombres. Ça conclut joliment les grosses sorties du mois. On va donc passer maintenant aux événements majeurs qui ont rythmé le mois de septembre 2010. Et forcément, c'était à la toute fin du mois, il y a quelques jours à peine, l'officialisation de la Nintendo 3DS concernant en tout cas la date au Japon et aussi en Europe, même si elle est moins précise, et aussi le prix. Alors messieurs, qui veut prendre le microphone pour nous résumer un petit peu la situation sur la 3DS, qui donc sortira le 26 février 2010.
Voilà, t'as tout dit, j'ai plus rien à dire.
Mais personne voulait.
Après, faut,
si le temps que je prenne le micro des mains de Julo. Donc effectivement, alors, 26 février 2011 au Japon, donc
mars chez nous,
à 25 000 yens,
ce qui fait environ 220€.
Oui, au cours du jour effectivement, voilà. Où ça a été annoncé. Et puis en mars en Occident, donc en Europe, aux États-Unis, etc. On n'a pas de prix pour l'Europe, malheureusement. On estime que ça sera de toute façon aux alentours de
250€,
voilà. Ouais. Donc
Je les vois pas être dans la fourchette basse de la
conversion. Ils seront pas en dessous de 200€, c'est quasiment ça.
Ouais, mais ça commence à grogner pas mal parce que tout le monde se dit qu'à 200€, ils l'achèteront pas, 250 encore moins. Ouais, maintenant, je sais pas, Nintendo veut en écouler 4 millions en un mois dans le monde.
C'est ça.
Ouais.
Dans le monde, évidemment.
Mais ils ont établi ce premier prix, Iwata disait ça, en fonction aussi des retours qu'ils ont eu à l'E3 qui étaient quand même très, voilà, très, très, très enthousiastes. Mm-hmm. Et puis dans la boîte, il faut le dire aussi, il le file avec une carte SD de 2 Go, un socle de chargement,
un stylet
qui peut faire jusqu'à 10 cm, dont tu peux régler la taille. Ouais. Elle est compatible avec la précédente, la DS évidemment. Yes, oui. Et puis on pourra aussi accéder à une virtuelle console pour rejouer au jeu Game Boy Advance.
Et Game Boy.
Donc mine de rien, l'offre est quand même assez, assez conséquente a priori. Donc,
et puis il faut voir le line-up de malade, ouais,
d'ailleurs,
si on en parle.
Justement, c'est là où on va faire intervenir vous, les lecteurs de Gameblog, mmh. Avec les questions qu'on a sélectionnées. Mais il y en a une, par exemple, d'Anthony, qui nous demande, question très simple, parmi le line-up annoncé pour la 3DS, quel jeu vous fait le plus de l'œil? Moi, c'est tout le line-up, en fait. Alors, oh. Effectivement, est-ce qu'on pourrait extraire certains des titres? Il y en a beaucoup qui ont été annoncés, confirmés ou même dévoilés.
Il y en a un qui est, à mon avis, qui nous concerne tous, ou en grande partie, c'est le remake de Zelda Ocarina of Time.
Ah oui, ouais.
Alors évidemment c'est un remake, on le connaît tous, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'attend vachement.
Alors moi bizarrement ce serait plutôt Metal Gear.
Et moi c'était le bon autre aussi.
Voilà, parce que c'est certains remakes de Snake Eater, donc maintenant le titre c'est vraiment Metal Gear Solid Snake Eater 3D. Mais vraiment moi je trouve que c'est celui qui exploite le mieux la 3D pour l'instant, l'impression de relief.
Parce que ce qui est marrant ce que tu dis, c'est que moi effectivement quand on a vu les vidéos à l'E3, c'est effectivement la seule vidéo qui donnait l'impression de relief.
Déjà.
Même en 2D.
Ouais,
quoi.
C'est ça, ouais.
Ça m'a paru super bizarre. Je sais pas pourquoi, avec la guêpe qui s'approchait de.
Et le serpent.
C'est vraiment. Ouais,
serpent.
Alors, est-ce que ce sera vraiment ça le jeu, puisqu'on sait qu'après. Ce sera donc une. C'est Snake Eater, donc MGS3, mais revisité quelque peu, à la fois visuellement, graphiquement. On voit que les visages sont bien plus affinés que dans la version PS2. Et puis, il y aura quelques ajouts au niveau du gameplay, probablement pas au niveau de l'histoire, mais ça, on n'en sait pas encore grand chose. Mais c'est vrai que ce qu'on a pu découvrir, là, bah. Moi, c'est ce que j'attends de la 3D Relief. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais les gimmicks, des trucs qui viennent dans ta gueule, bah, c'est déjà vu. Bah ouais, mais moi quand on me parle de relief, c'est ce que j'ai envie de voir, quoi.
Et
c'est
puis quand tu es en train de ramper dans les hautes herbes, tu les vois classe. Passer, t'as pas du tout la même perception. Mais c'est valable aussi mine de rien pour Zelda, parce que quand tu chevauches sur Epona dans la plaine, t'as une perception de la profondeur et de la taille de cette plaine qui est différente de celle qu'on pouvait avoir à l'époque de la N64 aussi.
Erwan, est-ce qu'il y a des titres?
Moi, c'est un jeu. Alors, comme vous sans doute, j'ai vu la DS et l'effet 3D, donc évidemment, moi, ça m'a donné envie. Mais c'est un truc que j'avais pas vu à l'époque, qui a été annoncé. Et franchement, ça me fait super envie. C'est Paper Mario, quoi.
Ouais,
c'est parce que cette vision de différents plans d'action et qui sont dans cette série depuis longtemps, je pense que vont profiter de la 3D à mort. Ouais. Et ça me fait vraiment vraiment beaucoup envie.
Et pas Nintendogs plus cats.
Si.
Je trouve les chats hallucinamment bien faits. Vraiment, ils se sont l'air
non, mais
trop
c'est,
mignons.
C'est con, mais je sais pas vous, mais moi j'avais joué à Nintendogs. Quoi.
Oui,
enfin,
ouais,
voilà. Oui, je sais que je jouerai à Nintendogs plus cats. Voilà. Tu m'as fait avouer ça dans un podcast. Merci.
Mais moi, Erwan Cario a dit. Vous pouvez noter la date.
Mais je suis d'accord avec Anthony. Hein, tout d'ailleurs. Le line-up est impressionnant. Quoi. Le Dead or Alive, le Street Cat, le Paper Mario, le Star Fox 64 remis à la sauce 3D.
Il y a Mario Kart aussi.
Pour moi, était le plus décevant à l'E3 en tout cas. Ouais. Peut-être pas encore suffisamment
c'était,
avancé.
C'était vraiment exactement le même en fait.
Ouais, c'était pas
mais
très
comme
beau,
si, comme,
très...
comme Julo et moi, on a adoré le Star Fox 64. Il manque juste le F-Zero en fait pour que
oh
tout
là
soit
là,
parfait.
Ouais,
il manque un F-Zero 3D.
Ça serait génial.
Et personne ne parle de Love Plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui arrive sur 3DS et qui risque de faire un massacre au Japon quand on voit l'engouement qu'il y a autour de ce titre.
Il y a deux Resident Evil, comme vient d'en annoncer un nouveau qui est
The Mercenaries. Ça prendrait des modes et des missions dans les univers de Resident Evil 5 et 4.
Et là, j'ai envie de dire coup de gueule, puisque je sens qu'ils sont en train de nous faire la mode des DLC sur console portable. C'est-à-dire que ce qu'ils auraient pu mettre dans Revelations avec le mode multijoueur, ça s'appelle The Mercenaries, comme
table,
sur tous les Resident Evil, on a toujours maintenant, depuis quelques épisodes, un mode Mercenaries. Puisqu'en plus, là, globalement, ils l'annoncent officiellement. Ils disent oui, c'est les Mercenaries de Resident Evil 5, bon, avec 2-3 trucs en plus, mais mettez-le dans Revelations. Ah ben non, parce qu'on se ferait moins d'argent. Attends, moi je trouve ça un peu choquant au bout d'un moment d'annoncer comme ça des modes qui deviennent des jeux.
Bah oui, mais bon, si ça se vend bien, voilà, encore une fois, on a
le
choix de les empêcher de faire ce genre de choses.
Ne tombez pas dans le piège.
Dans les system sellers, on n'a pas cité non plus le professeur Layton, le masque des miracles, qui va être sauce 3D, etc. Donc ça risque d'être sympa.
Mais c'est marrant,
j'ai l'impression de voir ce que ça va donner sur les scènes en dessin animé, etc.
Je me demande surtout s'ils vont faire des énigmes qui seront basées sur une sur de
l'observation. Mais c'est ce qu'on découvre dans la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup d'énigmes avec justement des objets qui
avancent
comme ça.
Une nouvelle dimension dans les énigmes.
Des cubes qui vont tourner, voir des choses.
Et si je peux me permettre, il y a un autre truc sur la console, mais là sur la façon dont elle fonctionne, que je trouve génial, c'est que cette fois, donc le tag mode que tous les joueurs de Dragon Quest connaissent,
pas besoin
s'appelle
du jeu.
Sulechigai en japonais, c'est le fait de pouvoir croiser quelqu'un dans la rue, et il suffit maintenant que ta console soit allumée et que même
qu'elle
si le jeu n'est pas
lancé, en tag mode, tu l'as.
Oui, mais le jeu n'a pas besoin d'être lancé pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que tous les jeux auxquels tu auras joué une ou deux fois, il suffit de croiser quelqu'un qui a joué aussi et qui a une 3DS et hop, tu vas récupérer de nouveaux trucs, etc. Mmh. Et surtout, la console est multitâche aussi. Tu peux passer d'une application à l'autre exactement comme tu veux, comme sur la nouvelle version de l'iPhone. Donc ça, c'est
et
très
sur,
pratique
à
aussi.
Peu près tous les smartphones avant. Hein, et parce qu'à chaque fois, on fait référence à l'iPhone qui a quand même été le dernier smartphone à l'iPhone.
Ouais, mais là, vraiment, ouais, effectivement. Le fait de jumper de l'un à l'autre, enfin, en tout cas, dans la vidéo qu'a montré Nintendo, ça avait l'air d'être de très bien marché.
Et puis l'arrivée des Mi aussi.
Et l'arrivée des Mi, voilà, ouais. Exactement. Et moi, en réalité, tout ça m'excite beaucoup plus que la 3D, en fait. C'est bizarre, mais moi, je suis pas un surfanat de la 3D. Et effectivement, la chaîne de Mi qui va te permettre ensuite de créer les nouveaux codes barres, je sais plus comment ça s'appelle, les Q,
QR codes.
Les QR codes, s'échanger des Mi, et tu vas même pouvoir te prendre en photo et ça va créer ton Mi directement, etc. Enfin, il y a plein de petites
choses. J'ai hâte de tester ça.
Ouais, moi aussi.
J'ai hâte de voir si ça va vraiment marcher ou pas.
Ils trouveront pas tes cheveux. Ils n'existaient pas. non, vraiment, je suis super impatient de voir ça aussi.
C'est effectivement de belles additions. On continue d'ailleurs avec une question d'un internaute de Gameblog. Hein. Vous le savez, maintenant, vous pouvez à chaque fois nous poser vos questions. Là, il s'agit de Anne Falmire qui demande « La conférence Nintendo 3DS a montré beaucoup de licences gamer ainsi que des remakes gamer. Mais pensez-vous que cet engouement suffira pour changer la triste vérité qu'on a pu voir sur DS et Wii, sur Nintendo, seul Nintendo règne ?»
C'est faux.
Effectivement une question qu'on peut se poser.
C'est fou, c'est vrai sur Wii, c'est faux sur DS.
Oui.
Je peux pas le dire autrement. Il y a une avalanche de jeux d'éditeurs tiers qui sont géniaux sur DS depuis toujours, et c'est ça qui fait que on peut pas comparer la DS et la Wii.
Néanmoins, il faut admettre que depuis un an, on le sait, hein, les développeurs ont tendance à fuir la Wii et la DS parce que Nintendo phagocyte les ventes. Et même si en termes de visibilité ils sont là, en termes de vente c'est plus difficile pour les éditeurs.
En même temps, tous les éditeurs ils sont tous à fond sur la 3DS. Hein. Voilà, il suffit de relancer un petit peu l'économie de la DS avec un nouveau modèle, etc.
Et puis la DS, il y avait le problème du piratage qui a été un gros problème pour les éditeurs tiers.
Qui a été partiellement réglé.
Et c'est vrai que pour les éditeurs tiers, voilà, c'est les retours sur investissement, ils ont besoin d'être sûrs. Et le problème, enfin, le problème, je suis mal placé pour parler de problème du piratage, mais c'est parce que avec tout ce qu'il y a par ailleurs, mais ça a été un gros problème de cette facilité avec les linkers DS qui étaient super faciles à installer et à utiliser.
Les cartes qui étaient offertes dans les CE d'entreprise.
C'est grave. Voilà, ça a donné quand même un espèce de piratage de masse qui a posé des problèmes, sauf pour Nintendo qui avait cette force de vente incroyable
et de publicité aussi qui fait qu'on voit les jeux Nintendo très très longtemps. Mais néanmoins je trouve la question d'Anne Falmire un peu plus légitime qu'on ne le dit, parce que d'ailleurs Iwata l'a souligné à la conférence, a dit cette fois-ci nous serons au plus proche des éditeurs tiers et nous les accompagnerons plus encore.
Enfin, en même temps, il dit ça à chaque fois.
Ouais. Je suis d'accord, mais ça soulignait quand même une chose, c'est qu'il y a eu quand même des grognements.
Bah, on fait toujours
Nintendo, on a conscience.
On fait toujours le même procès gamer à Nintendo finalement, hein, que comme quoi il y aurait pas assez de jeux pour les gamers, etc. Mais c'est sûr qu'il y en a moins que sur 360 ou PS3. Mais si on fait un peu le bilan, que ce soit un Metroid Prime, un Mario Galaxy, un Muramasa, un No More Heroes, il y a quand même à chaque fois.
Ouais, le problème, c'est que tous ces jeux-là ne vendent pas. Mais vous n'avez pas compris la question. La question
sur Nintendo, seul Nintendo règne.
Ah oui,
les jeux que t'as cités, c'est
d'accord,
Nintendo.
Non, on est d'accord.
Et ben voilà.
Ceux qui n'étaient pas ne régnaient pas du tout.
Ce qui n'est pas sur DS.
Voilà, effectivement. Mais moi je pense pas. Déjà, si tous les éditeurs s'y mettent, c'est parce qu'ils sentent effectivement que cette fois-ci, il faut prendre la vague aussi dès le départ, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque de la sortie de la DS, la toute première. Hein, je pense.
Ah oui, clairement pas.
Donc
j'avais
là,
prévu l'échec de la DS.
Ah bon.
Erwan, notre grand Manitou.
Bravo.
C'est ça, c'est Pasteur. Erwan Pasteur.
Et cette fois-ci, ils veulent pas rater le train une deuxième fois. Quoi.
Pas te
Mais ce qui est dingue, c'est que la question du piratage, ils fournissent quand même une carte SD avec la 3DS.
Ouais, alors.
Bah, je sais pas. C'est un peu. Je sais pas.
À mon avis, non, parce que tu pourras pas faire grand chose avec ta carte SD, sauf sauvegarder des musiques et des sons que tu créeras avec l'un de ces logiciels qui sont livrés avec, et les photos en 3D et ce genre de choses. Ça sera très fermé. Donc après, ça veut pas dire pour autant que des piratins ne pourront pas l'utiliser, mais eux, ils progressent aussi sur ce front-là et depuis pas mal de temps.
Et les mauvaises langues diraient que le piratage touche essentiellement, effectivement, pas les jeux Nintendo qui continuent à se vendre énormément, permettent de vendre beaucoup de consoles et que Nintendo se fait donc de l'argent avec le hardware, de l'argent avec le software, et est tellement désolé pour les autres éditeurs qui n'arrivent pas à vendre leurs jeux. Bon, mais ce seraient les mauvaises langues qui diraient ça, c'est pas nous. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur la Nintendo 3DS, donc reste à connaître la date définitive, hein. On sait que ce sera en mars, mais quand précisément pour nous, la France, et puis le prix, hein, que nous, ici à Gameblog, je sais pas pour toi Erwan, mais on estime plutôt à 249 €.
Là, encore une fois, moi j'avais prévu un prix autour de 400 €.
Ah, très bien.
Voilà. S'il vous plaît, plus ne me demandez Bachter. Pas mon avis sur l'avenir, je suis particulièrement mauvais.
Eh ben écoute, on va se reconnecter du coup avec le présent, hein. C'était le 15 septembre dernier, sortait le PlayStation Move, donc vous savez, hein, ces manettes à la Wiimote-like, dont les mauvaises langues, une fois de plus, soulignaient à quel point c'était une sorte de plagiat un peu de Sony, de la part de Sony vers Nintendo. À la fois, c'est vrai qu'on s'est un peu foutu de la gueule de ce qu'on appelait le Konmiko pendant très longtemps.
Le sextoy.
Et puis, bah, c'est arrivé. Et puis au final...
Tout le monde aime un sextoy finalement, c'est ça?
Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a été pas forcément extraordinairement séduit par les premiers jeux, mais plutôt par la précision de l'engin. Erwan.
Oui, non, c'est les premiers jeux, c'est, voilà, c'est, on est Wii Sports et Wii Play, hein, en version Sony, donc personne ne sera surpris. Et puis, ben, c'est généralement des jeux qu'on ressort quand on a des amis qui n'ont jamais joué au Move, j'allais dire à la Wiimote, mais pardon, qui n'ont jamais joué au Move, qui arrivent chez. On a le Move, ah, regarde, tiens, je te mets Sports Champion, et puis après, voilà, en attendant qu'il y ait un nouvel ami qui arrive, on n'y touche plus.
Ouais.
Mais en tant que matériel, moi, j'ai été épaté. Enfin, franchement, tient vraiment la promesse. En fait, ça tient la promesse
initiale
de la
Wiimote.
Voilà, c'est ça. Et alors, il y a cette petite contrainte de la caméra, hein, qui est une vraie contrainte pour le coup, de poster la caméra au-dessus. Moi, j'ai dû mettre une installation à moitié bancale pour que la caméra tienne.
Avec du scotch aussi.
Ouais, voilà. Mais dans le résultat, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Quand même.
Et du coup, il y a des titres que tu attends qui pourraient tirer.
Aucun.
Ah bah ouais, mais alors ça, c'est quand même le problème. Parce que ça.
Je souligne juste le fait que ça marche.
Voilà. Il n'y a pas. J'ai regardé, il n'y a pas de jeu qui me semble intéressant à terme. Alors, je me trompe peut-être, je ne suis pas au courant de tout, mais voilà, je trouve que le matériel est bien.
Voilà. Non, mais voilà, parce que ça, je trouve que tu soulignes quelque chose qui est extraordinairement important. C'est-à-dire que là, nous sommes entre professionnels, nous avons la chance d'avoir un PlayStation Move qui nous est offert gracieusement par Sony pour le tester et donner nos avis.
Qui en a
bien
cher ici, c'est ça ?
Ça coûte cher, quand même, soyons clairs. Hein. Au niveau financier, c'est un vrai investissement. Et Erwan, tu le soulignes à juste titre, oh bah ça marche super bien, donc on est très content de la technologie, mais en fait je n'ai rien à foutre. Bon, bah voilà.
Voilà,
et c'est un peu quand même le problème, bah c'est que les titres, alors il y en a qu'on pourrait citer, un peu gamer, les Killzone 3 qui devraient tirer parti du PlayStation Move et du Navigation Controller et peut-être être sympa justement avec l'utilisation pour un FPS du PlayStation Move. Il n'y en a pas non plus 10 000 autres qu'on peut citer, peut-être Socom 4, mais c'est pas...
Mais même, moi, j'ai pas envie de jouer à Killzone 3 avec un Move. Oui, mais déjà, à la base, j'ai pas envie. C'est-à-dire qu'il faudrait que je m'y essaye et que ça me surprenne tellement d'efficacité et de plaisir que j'abandonne la bonne vieille manette.
Il y a The Sorcery, peut-être.
Oui, si, voilà. Pour moi, c'est effectivement le seul jeu annoncé et qui a été montré qui me tente un peu. Quoi.
Alors, Tiger n'a pas l'air d'accord.
Mais parce qu'il serait gratuit aussi, encore une fois. Je veux dire, tu mettrais 70 € dans
Sorcery. Pour Sorcery, c'est le seul qui m'intéresserait.
On récapitule pour je connaîtrais pas le titre, c'est une sorte d'Harry Potter, on est Harry un petit Potter magicien, Mike, hein. Et puis avec sa baguette magique, donc le PlayStation Move, on fait des formes comme ça.
Mais encore une fois, je pense que le PS Move, il est pas là pour contenter les joueurs gamers machin, mais pour élargir le public, hein. Comme Nintendo a fait avec la Wii, c'est juste pour trouver d'autres personnes, la maman, voire la grand-maman, qui vont jouer avec leurs enfants, etc., sur des jeux
les familles, juste
de type
les familles,
Wii Party, etc. Quoi, hein. Ouais. C'est, à mon avis, moi, c'est que pour ça qu'ils l'ont fait. Hein.
Ouais, le mais problème, c'est que si tu veux jouer à plusieurs, après, il faut que tu achètes plusieurs moves, donc c'est d'autant plus cher. Hein. C'est ça qui est.
Ah, bah, de toute façon, oui, mais c'est pour ça qu'ils font des packs, etc. Quoi,
et comme le souligne assez justement Julot, sauf que sur ce public-là, on peut se dire qu'ils ont peut-être déjà une Wii.
Ah oui,
qu'est-ce
qui
va
ça,
les motiver à investir quasiment 400 €, hein, puisque si on va avoir le pack, la PlayStation 3, un Move, etc., sans jeu, on le rappelle.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en France, nous n'avons aucun pack vendu PlayStation Move avec un jeu.
Ça, je suis tout à fait
juste des démos, en plus installés sur des disques durs, machin, pas très pratique.
Ils veulent vendre des consoles avec ça. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Des consoles avec des gros disques durs, etc. Bah, oui. Ça va peut-être intéresser les cadeaux à la fin de l'année dans les familles, effectivement. Bah, ça peut marcher comme ça. Hein.
Et tu parlais de Killzone. Je sais pas si vous avez le jeu Sports Champion. Il y a un des jeux que j'ai beaucoup aimé, c'est le tir à l'arc.
Ouais, c'est très bien.
Vous
avez
fait une session où vous avez fait toutes les coupes en une seule session? Ça dure une heure. Allez, on va faire pour faire toutes les coupes du premier niveau. Ça dure une petite heure. Enfin, il faut juste tirer sur des cibles et tout ça. C'est très simple. t'as mal au bras à la fin, c'est quelque chose d'horrible.
Ça, alors, j'aime bien.
Comment on retire l'arc.
Sentir ce côté physique, justement.
Ouais, bah, joue à Killzone. Ouais, ouais. C'est bon courage.
Tu as joué avec un ou deux moves au tir à l'arc?
Un.
Ouais, c'est encore mieux avec deux.
Ouais, voilà. Bah, c'est... Et je me vois pas jouer à un FPS sur une session de 3 heures à pointer l'écran. Non, c'est hors de question.
Il faut s'arrêter toutes les 2 heures. Tu sais.
Oui, bien sûr. Oui,
c'est vrai.
Et ouvrir la fenêtre et respirer.
Oui.
En tout cas, vous l'aurez compris. Oui, le PlayStation Move, ça marche. Oui, c'est chouette. Oui, c'est excitant. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous ne sommes pas particulièrement excités par les jeux qui l'utilisent.
Sauf Sorcery pour moi, vraiment. Oui.
Ça en fait un.
Non mais si jamais il y avait un Just Dance qui arrivait avec le Move, tu vois, pour les copines des mecs qui ont une console PS3 hardcore.
Il va avoir un Child of Eden où a priori il sera compatible ouais, PlayStation Move.
Mais... Oui mais Child of Eden ça va pas se vendre à des milliards. Moi j'attends ce jeu impatiemment mais ça va pas énormément se vendre.
C'est sûr.
Faudrait une grosse licence party game en fait.
Consultez les news de Gameblog, vous allez voir que il y a quelques genres de gameplay que Sony a dans les cartons. Bon avec des noms un peu absurdes pour l'instant mais. Voilà.
Favelas Dance ou je sais pas quoi. Ouais.
Rythme Favela. Oui, ouais, c'est ça. Pro Bricolo, etc. Enfin bon, je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir l'année prochaine. Bon, cette année, à mon avis, on va s'arrêter à ces jeux qu'on connaît déjà. Mais de l'année prochaine, à mon avis, il peut y avoir des choses intéressantes. Pourquoi pas.
Mais après, le problème, c'est est-ce que les gens vont y revenir ou est-ce qu'ils vont définitivement considérer le PS Move comme déjà has-been au moment où il est sorti en termes de line-up de jeux, quoi.
Bah, Sony compte sur le bouche à oreille, d'après ce qu'ils disent. Donc après.
Et on sait, on a appris que les ventes, là on parle de la France, sont meilleures que ce que Sony espérait. C'est-à-dire que le démarrage est plutôt bon en tout cas. Alors maintenant, il faut voir comment ça se prolonge, hein, ça se poursuit. Mais en tout cas, n'oublions pas aussi, par exemple, Peter Moore donc, chez Electronic Arts, qui soulignait quand même qu'il ne voyait pas de nouvelles consoles arriver avant 2 ou 3 ans et qu'effectivement, Sony et Microsoft avec Kinect, en lançant des nouveaux hardware finalement, des nouvelles interfaces, veulent prolonger comme ça la durée de vie de leur machine. On le sait aussi que les investissements sont colossaux pour la sortie de nouveaux hardware et que du coup, bah, finalement, le PS Move a peut-être, et Kinect aussi, plusieurs années devant elles pour faire leurs preuves et pour montrer des line-up qui vont s'étoffer.
Mais c'est, pour moi, je vois ça vraiment comme des consoles, c'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure console du monde, la plus précise, la plus machin, donc en l'occurrence par un PS Move, c'est la précision, etc. S'il n'y a pas le jeu qui va te donner envie de l'acheter, effectivement, ça ne sert à rien.
Pour un accessoire.
Pareil.
Ça a été la force de Nintendo, c'est d'avoir la Wiimote dans la boîte. Et le PS Move et Kinect n'étaient pas dans la boîte.
Je pense qu'ils essayent aussi surtout de réitérer le succès de Wii Fit et de la Wii Balance Board. Et voilà, on voit la Wii Balance Board qui s'est vendue par wagon entier sans jeu. Enfin, il n'y a rien, il y a juste les jeux.
Mais il y a le jeu qu'il faut, il y a Wii
sans
Fit.
Console. C'est-à-dire que je pense qu'un nombre incalculable de personnes ont acheté la Wii Fit, l'ont amené chez eux et ont fait. Mais qu'est-ce que je fais là? Eh ben, il faut acheter une Wii, madame.
Et je crois que c'est vraiment. Un marché qui intéresse vraiment Sony et Microsoft, c'est ces gens qui achètent des choses sans jeu vraiment. Et voilà.
Je suis pas d'accord avec toi. Wii Fit, il y avait pas de jeu, mais il y avait un jeu et c'était le jeu qu'il lui fallait, c'est tout, point.
Ouais, il y avait une promesse et tout ça, mais c'est le Wii Fit, avec l'aspect, je sais plus si je l'avais lu ici, d'objet raclette, le syndrome appareil à raclette, qu'on met dans un placard et qu'on sort que quand il y a des potes qui viennent. Et voilà, et je pense que c'est un vrai marché du jeu vidéo, l'appareil à raclette.
C'est sûr.
C'est un vrai marché. Et Sony et Microsoft, c'était très très triste de ne pas en faire partie.
Ah bah, le marché de l'accessoire, on l'a vu avec les Guitar Hero, etc. C'est très bien porté en tout cas ces dernières années.
Mais c'est toujours jumelé avec un jeu qui va avec et qui est fait pour et qui a une promesse que les gens veulent. Et j'ai pas l'impression que pour le moment on l'ait avec le PS Move ni avec Kinect d'ailleurs.
Et à suivre dans les mois à venir, on en saura plus avec les prochains titres Move et puis on en reparlera pas le mois prochain mais dans un mois et demi de Kinect qui fera son arrivée le 10 novembre chez nous en France. Ce sera l'heure de faire le grand bilan. Voilà, et puis au niveau des événements, forcément, on revient très rapidement. Il y a eu un podcast qui lui a été dédié au Tokyo Game Show 2010 qui s'est tenu du 16 au 19 septembre dernier. Avec Julo et Cédric, on était sur place. Nous, on a trouvé que c'était un Tokyo Game Show qui se portait. Moi, j'ai trouvé que c'était l'an 1 du retour des Japonais.
C'est-à-dire
que.
On n'est pas encore. Ils n'ont pas encore passé
pas
la deuxième.
Zéro,
c'est ça.
Mais juste l'an 0 peut-être.
Non, 1. Voilà.
Non, c'est vrai qu'on a senti le jeu vidéo japonais renaître un petit peu, enfin tout du moins, voilà. Inafune et Capcom qui lead the way, comme ils disent. Il y a eu des jeux intéressants, il y a eu des annonces. ce qui n'était pas le cas forcément l'année dernière, ce qui n'était même pas le cas à la Gamescom cette année d'ailleurs.
Non.
Donc c'était un salon plutôt sympa, quoi. Et pas extraordinaire, mais il y avait des annonces, des nouvelles choses.
Il y a eu des gros jeux, et il y a eu des petits jeux débiles à la japonaise, qui n'étaient pas là l'année dernière non plus.
C'est vrai, c'est vrai.
L'année dernière, c'était banal, technologiquement à la ramasse.
Alors que là, on avait des jeux de drague.
Mais oui, mais voilà, c'est pas des grands jeux, mais c'est les jeux japonais.
Tu vas te mettre à Love Plus, toi.
C'est Dream Club, lui.
Dream, c'est Club Zero. Mais j'ai envie de tester Love Plus, juste pour
voir. C'est le
bah alors sur 3DS, lui.
Ah ouais, non, mais je veux voir à quoi ça. Pourquoi il y a un tel engouement, je veux comprendre. Voilà, c'est purement journalistique, bien évidemment.
Et ce sera le tournant de ta vie. Voilà, tu vas te marier avec ta DS, toi aussi.
C'est pas prévu. Voilà, concernant les événements majeurs, on va maintenant très rapidement défiler sur les news qui ont marqué l'actualité. Mais avant ça, on va prendre encore quelques une de vos questions, et là la question est de Mercobenz13, j'espère que je le prononce bien, est-ce que les éditeurs ne jouent pas trop sur la fibre nostalgique des joueurs en sortant de plus en plus de remakes HD? Et c'est c'est dans l'actualité, il y a eu l'annonce de Beyond Good and Evil qui ressortira en 2011 sur PS3 et Xbox via les PSN et Xbox Live,
La Fureur de l'étranger sur PSN aussi avec un vrai remake bien refait,
Ico Shadow of the Colossus en HD sur PS3, c'est vrai que on en a de plus en plus, il y a eu God of War aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre, à votre avis, à en voir de plus en plus? Et là, j'ai envie de dire, avis, imaginez, Erwan, avenir, futur.
Alors, voilà, avenir, oui.
Merde, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, mais enfin, moi, je suis d'accord avec la constatation. Je pense que c'est pas un souci parce que c'est des choses qui arrivent en plus. C'est-à-dire ça coûte moins cher à développer. Et franchement, Shadow of the Colossus et Ico, j'en rêve, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Et ça leur a pas coûté très cher, je suppose. Il faut juste s'adapter à la HD et tout ça. Et j'ai l'impression que ils les sortent, mais ça n'empiète pas sur les autres sorties, sur les vrais projets nouveaux, récents.
C'est pas comme si on manquait de jeux, quoi, déjà, tu vois.
Et il y a suffisamment de productions récentes, nouvelles, que, en plus, pour les nostalgiques, évidemment, ou ceux qui ont envie de retrouver des expériences passées.
Ou ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi, merde.
Faire des remakes, c'est quelque chose en plus, quoi. Voilà, c'est un peu comme. Pour moi, c'est un faux débat comme la montée du casual. Tant mieux qu'on a des jeux pour gamers qui cartonnent, mais tant mieux que le casual explose. Pour l'instant, je pense qu'il y a suffisamment de place pour que tout le monde grandisse.
Plus on est de fous, plus on est.
Et voilà, il n'y a pas de cannibalisation pour l'instant, en fait, à mon avis.
Mais est-ce que vous ne pensez pas, néanmoins, que ces jeux, ces ressorties HD, généralement sont intelligemment placés? On voit que Ico, Shadow of the Colossus vont sortir quelques mois avant Last Guardian, que Beyond Good and Evil probablement prépare le terrain pour Beyond Good and Evil 2.
Tu veux dire que les éditeurs de jeux vidéo voudraient vendre des jeux?
Non,
tu vas trop loin. Julien, tu vas trop loin.
Je sais, mais je ne peux me l'empêcher. Non, mais en plus, c'est vraiment pas péjoratif du tout ce que je dis. C'est permettre. On a parlé pendant très longtemps de la rétrocompatibilité des consoles. Finalement, elle a tenu une génération. Finalement, elle n'existe pas. Sur Xbox 360, il y a quelques titres. Sur PS3, elle a été balayée très rapidement. Elle existe finalement que sur Wii, avec les jeux GameCube. Mais c'est vrai que pour retrouver ces jeux et pour, comme le disait Raon, les faire redécouvrir peut-être à des gens qui ne connaissent pas BGE, le premier du nom, qui ont entendu parler. Moi, je trouve ça sain, je trouve ça bien. Et le fait, c'était pas du tout péjoratif, de les relancer quelques temps avant les sorties des prochains gros vrais volets, à permettre de recréer une attente et un buzz quelque part.
La seule chose que j'espère, moi personnellement, c'est qu'ils ne vont pas, c'est de cette facilité là que j'ai peur, c'est qu'ils ne fassent plus juste un passage à la HD et basta, on n'en parle plus, parce qu'il y a moyen aussi de redonner vraiment donc une nouvelle jeunesse à ces jeux en investissant un petit peu plus de ressources, c'est vrai, d'accord, faut remodéliser des choses, refaire quelques textures, etc. Mais pour certains jeux, ça serait vraiment tellement bien.
A priori, Ico et Shadow of the Colossus, ça va être quand même retravaillé, non?
Les textures, on l'a vu. Pas tant. Ça rame encore un petit peu. Non, mais c'est plus beau, c'est HD, mais c'est. Voilà, c'est un peu
la même dimension que les remakes God of War, en fait. Sauf que je crois que la Team Ico avait déjà à la base fait des textures assez en haute résolution. Donc il est pas celle-là,
mais c'est pas Eric Chahi qui avait lancé, enfin je pense pas que c'est lui qui a lancé ça, mais il avait fait ça pour Another World il y a 2-3 ans,
peut-être même un peu plus longtemps,
mais il avait fait ça il y a un bout de temps alors.
Avec un remake HD
ouais tout à fait d'Another World
On dit remake, mais en fait c'est
c'est
justement c'est pas vraiment un remake, c'est plutôt une réédition,
remise au goût du jour, voilà.
Mais et justement, je sais pas si, hormis God of War, je trouve que les jeux qui sont sélectionnés pour être des remakes HD sont généralement
des petits jeux, alors pas par l'ampleur de la puissance narrative ou du gameplay, etc., mais des jeux qui n'ont pas très bien marché.
Oui. Mais qui ont quand même marqué des générations.
Ico et Shadow, c'est pas des grands succès. Another World, c'était un beau succès d'estime,
oui,
mais ça n'a pas non plus été un carton colossal.
Bah, pour l'époque, si, quand même.
Ouais, pour l'époque, quand même. Alors, par Romeo à aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui aura à jouer. Hein,
c'est peanuts, évidemment.
C'est sûr.
Donc, je trouve ça presque sain et classe de la part des éditeurs de reprendre le risque de miser sur ces titres-là plutôt que nous sortir. Je pensais à Mario spontanément, mais ils en sortent tout le temps. Donc, mais des gros jeux, quoi, attendus, évidemment. Quoi.
Complètement. Non, ça fait plaisir. C'est vrai que dans le cas de BGE, moi, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et c'était triste ce flop commercial. Voilà, parce que ils avaient sorti, je me rappelle à l'époque, Prince of Persia, BGE en même temps. Enfin, il y a une espèce d'embouteillage à cette époque-là. Splinter Cell un mois plus tard ou deux mois plus tard. Enfin, c'était le premier, c'était un embouteillage de dingue. Voilà, et puis c'est vrai que ça faisait de la peine, et voilà,
ils vont enfin le rentabiliser au bout de 20 ans, quoi.
Ouais, cool. Voilà.
Mais il a été rentabilisé depuis, je crois, hein, il me semble, déjà. Dans la longueur, avec les baisses de prix, les machins, ils s'en sont à peu près sortis.
Moi, le premier qui dans cette vague là qui m'a fait vraiment plaisir, c'était le Prince of Persia, le premier 2D, et la réédition, enfin remake était assez formidable.
Ouais, qui est sorti partout, hein, même sur
iPad. Ça, c'était un vrai remake pour le coup, ils avaient repris le personnage, le design de Sands of Time, etc. Ils avaient vraiment refait le jeu, même si c'était exactement les mêmes niveaux, exactement le même gameplay, ils avaient vraiment tout refait.
Et on s'était rendu compte à quel point c'était super dur à l'époque.
Ouais.
Et à quel point Jordan Mechner, donc le créateur, est devenu tout super riche depuis.
Ah oui.
Alors qu'à l'époque, il était pauvre.
Tout va bien pour lui.
Quoi ?
Maintenant, il filme plus son frère avec son Super 8 pour faire des animations. Allez, une autre question d'un internaute de Gameblog.fr. Il s'agit de la Danette du 94. Et on se lève pour la Danette. voilà. Pensez-vous qu'Apple va réagir à la console portable 3D de Nintendo ? On en parlait il y a quelques instants. Soit en essayant de trouver quelque chose de plus fort, soit en marchant sur les pas du constructeur japonais. Est-ce qu'on est en droit d'attendre un iPhone 3D ou une autre technologie de ouf malade ? Et j'ai envie de dire qu'effectivement, ça repique vraiment l'actualité du mois de septembre, puisqu'on le sait qu'au début du mois, Steve Jobs, dans sa dernière keynote, a été pour la première fois ultra offensif et nominatif en soulignant que la plateforme maintenant iOS, donc iPhone, iPod, iPad, et ben était la plateforme de jeu numéro 1 devant les portables de Nintendo et Sony. Donc effectivement, question est légitime.
Et ils ont sorti leur Game Center, hein, la mise à jour il y a quelques jours, donc qui est maintenant disponible. C'est la 4.1. Mm-hmm.
Apple est un acteur majeur du jeu vidéo ? Maintenant.
Oui, si ils on le prend en termes d'industrie et en termes de plein de trucs, oui, ils ont leur cheval de Troie maintenant. Mmh. En fait, c'est ça. Mais je pense pas qu'ils joueront sur les histoires de 3D, d'écran et de trucs comme ça. Je pense que c'est ça, ils en foutent à mon avis. Je me plante peut-être parce qu'avec Apple,
alors,
tu
sais
jamais.
C'est des manières de jouer différentes en plus. Hein. Bon, évidemment, il y a énormément de jeux sur iPhone, mais je sais pas si on peut vraiment faire le parallèle avec une console Nintendo.
Non,
quoi.
C'est pas
le même public.
C'est pas le même type de prix, c'est pas le même type de jeu.
Exactement.
C'est pas la même interface.
Et pourquoi ça ne pourrait pas le devenir?
C'est-à-dire se rapprocher de ce que fait Nintendo.
Pourquoi est-ce que des éditeurs, voyant effectivement la plateforme maintenant ultra démocratisée, disant qu'avec une bonne distribution dématérialisée, peuvent se dire qu'ils vont faire un... Pourquoi un professeur Layton n'arriverait pas sur iPhone ?
Oui, mais là parce qu'il y a des.
Professeur Layton Light.
Ouais, mais du coup, ça sera Layton Light aussi.
Ça, oui, non, mais ça peut être une grande licence.
Mais il y a déjà des tonnes d'éditeurs.
Da Vinci Code qui sort sur iPhone. Et
mais
je peux dire que ça fera un beau cadeau.
Il y a déjà des éditeurs qui sortent toutes leurs licences sur iPhone, ouais. Ou presque. Enfin, je veux dire, il y a des Street, il y a des S-Combat, il y a des. Il y a des Monkey Island, il y a des trucs, il y a plein
alors
de trucs.
Alors Julio dit que c'est juste injouable.
Ça dépend lesquels, mais bon.
Sur iPhone, tu peux ou iPad, etc. Tu peux créer des gameplays spécifiques, ça donne des trucs géniaux. Mais je sais pas moi, Final Fantasy 1 et 2 qui est sorti sur iPhone, c'est injouable parce que tu dois mettre ton pouce sur l'écran pour simuler une croix de direction et ça marche pas. Enfin ça marche, faut que c'est juste l'œil porté tout le temps sur la croix de direction virtuel que t'es censé toucher et voilà, la plupart des jeux sont injouables, les jeux spécifiques sont super drôles, etc.
Mais
c'est très souvent des petits jeux, alors quitte à considérer, parce que c'est une grosse part du gâteau, etc., qui sont acteurs de jeux vidéo commercialement et tout, je suis super d'accord. Mais les jeux flash sur internet aussi, alors.
Mais ça sera limité effectivement à des jeux.
On peut vraiment comparer ça à la créativité qu'il y a sur les jeux flash sur internet.
C'est vrai, créativité.
Passion à part ça. On trouve des choses formidables. Moi, Ce qui m'amuse un peu, c'est le côté Apple, iPhone et ces choses-là. Je pense que la suprématie Apple, iPhone est en train d'être un tout petit peu ébranlée par Android et par ce genre de, ouais, de choses en termes de marché, en termes de vente. Je pense que ce qu'il faut penser, c'est les appareils, les téléphones portables en tant que console de jeu. Oui, ça mais ça va être des jeux pensés pour téléphone portable, comme tu le disais. On va pas porter des gameplays de console classique là-dessus, ça a aucun intérêt.
À la fois, je vous rappelle que le jeu le plus vendu sur DS, c'est Nintendogs, extraordinairement adaptable à, à l'iPhone.
Oui, non, mais il y en aura évidemment, mais c'est
en même temps, je pense pas que Nintendo va transposer son jeu sur.
Ce style de jeu, il y a plein de gameplay sur DS qui demande pas une maniabilité ultra précise, etc. Il faut juste appuyer.
Ça doit exister déjà, non?
Et puis, si on parle de l'iPhone et de l'iPad, oui. Voilà, c'est du matériel, c'est de l'OS. À l'époque, dans les années 90, voilà, on disait pas que Microsoft était un grand acteur du jeu vidéo. Mmh. Hein, on le disait pas dans les années 90, on est d'accord. Alors que tout le monde jouait sous Windows.
Ouais, mais il y avait une différence, c'est que Apple a toujours été beaucoup plus fermé que le PC.
Donc c'est plus un problème.
Ouais.
La fermeture, mais
moi, je pense que leur plus gros avantage, c'est surtout iTunes, c'est pas l'iPhone en lui-même. C'est la méthode de distribution et l'accès au réseau 3G. Pour moi, c'est ça qui est vraiment le cheval de Troie d'Apple sur ce marché.
La possibilité à tout endroit, à tout moment, voilà, de pouvoir acheter un
par
jeu
par des microtransactions
rapidement,
pas cher, et voilà. Et ça, c'est ça le gros avantage. C'est-à-dire que même si ces jeux sont, si certains de ces jeux peuvent être merdiques, voire médiocres, bah c'est pas grave, on les achète, ça coûte 79 centimes d'euros, et puis tu fais trois parties dans le métro, t'as occupé ta journée avec, et puis peut-être que tu reviendras, peut-être pas, mais en même temps c'est pas très grave, ça coûte moins cher qu'une cigarette, quoi. Donc voilà.
Et bah moi j'y crois à mort, mais vraiment dans les 10-15 ans à venir, à un basculement de tout ça, et je pense que la part du jeu vidéo sur téléphone portable n'en est vraiment qu'à ses tout début, rappelez-vous.
Donc, c'est pas comme si on n'avait pas un exemple.
Il y a 4 ans on n'y jouait pas du tout, et aujourd'hui on y joue, et de plus en plus régulièrement. Franchement, moi je vois un très gros avenir dans le marché du jeu vidéo sur téléphone portable, et je pense que Nintendo et Sony se doivent de très très vite réagir, et je pense
mais
que
tu verras
la 3D c'est aussi ça.
Ils passeront par la 3G aussi, c'est vachement important. Ils feront des accords avec les boîtes de télécom et tout.
Mais moi je pense que la meilleure réponse justement pour l'instant de Nintendo, c'est d'avoir foutu la 3D relief que les autres ne font pas, et d'avoir justement cet avantage visible technologique qui fait que tu ne l'as pas. Et moi ça ne m'étonnerait pas que Apple etc. foutent du relief parce que c'est juste l'écran. Il faut la base de l'iOS, c'est un écran toujours à peu près de la même taille et la répartition des trucs.
Mais c'est pas propriétaire à Nintendo, c'est un écran Samsung.
Exactement.
Que tout le monde peut utiliser, qui est utilisé pour les appareils Sharp. Pardon, donc, qui est utilisé par d'autres appareils photo, etc.
Tu l'actives, tu le désactives, je fais la relief sur l'iPhone 7 3DS machin. Enfin, moi je vois bien, et effectivement comme le dit Erwan, pas qu'Apple, hein, mais Apple, Android, etc. Rattraper bien bien leur retard. Allez, on va sélectionner très rapidement quelques news. Microsoft qui déclare que Kinect se vendra à plus de 3 millions d'unités à Noël. Ça vous paraît envisageable?
J'en ferai pas partie en tous les cas.
Ouais.
Ça représente combien de pourcents de la base installée? Calcul.
10%.
10%? Ouais. Pourquoi pas?
Moi, j'y crois. Erwan,
c'est une attention. Question au futur, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Pour toi? Non.
Très bien.
Cool, j'ai pas dit la même chose que lui.
Oui, non, j'hésite.
Le mois de septembre, c'était aussi l'anniversaire de Mario qui fêtait ses 25 ans et de la PlayStation en Europe qui fêtait ses 15 ans. Voilà, bon anniversaire à la PlayStation et bon anniversaire à Mario qui est toujours aussi bedonnant et moustachu après 25 ans. Il n'a pas changé. StarCraft 2, un carton colossal, hein, plus de 3 millions de ventes déjà. C'est ahurissant quand même, c'est vraiment le méga carton
du
PC. Mais
ça ne surprend plus personne de la part de Blizzard en fait, en même temps, c'est ça. Ouais.
Ce qui surprend les gens, c'est que ça y est, Duke Nukem Forever est annoncé officiellement par 2K et Gearbox. Il sortira bien un jour, normalement peut-être,
en 2011.
Va même y jouer bientôt.
On va aller le voir.
On va aller le voir.
Ouais. Effectivement, il y aura une présentation officielle de la part de 2K, donc on y sera. Et vous aurez plein d'informations, des choses comme ça, tout ça.
Je veux que vous touchiez l'écran.
Oui, oui, oui.
Je veux que vous soyez sûr qu'il se passe quelque chose, que vous le tourniez, que ce soit une cachette VHS ou un DVD ou je ne sais quoi. Voilà, Top Spin 4 qui a été annoncé pour 2011, un jeu de tennis une série qu'on apprécie bien ici à Gameblog.
Ça aurait pu faire un truc d'ailleurs comme PES FIFA entre Virtua Tennis et Top Spin. Ça,
c'est
un peu. Normalement, c'était pas aussi régulier, tu vois.
Surtout que Virtua Tennis 4, là, c'est Hitmaker, les mecs de chez Sega, historique, qui ont repris la liste. licence, donc ouais, il y a peut-être un duel intéressant.
Ça peut être un beau duel cette année, enfin en 2011 en tout cas. Sakamoto, qui avait réalisé donc Metroid Other M, qui déclare la prochaine Nintendo va vous laisser bouche bée. Alors, qu'est-ce que Nintendo est en train de nous préparer? C'est vrai que c'est la grande question.
Un périphérique à mettre dans la bouche.
Ben c'est ça, l'holographie, des jeux en 3D relief, etc. sur vos écrans sans lunettes, je ne sais pas.
Non, il dit qu'effectivement. De quoi? Il parle de périphérique à mettre dans la bouche. Non.
Très bien.
Il pense encore en banane.
Ouais, c'est ça.
Il pense encore en banane de Dream Sea Club, machin truc.
C'est ça.
Oui, j'en ai deux dans mon sac.
Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'elle sera beaucoup plus articulée, orientée vers le multijoueur. Est-ce que ça suffira pour nous laisser bouche bée?
Non, visiblement, il y a une petite astuce encore technologique, je sais pas, mais en tout cas, un truc que personne n'a jamais fait. Donc, du type Wiimote, mais en mieux, machin. Ou peut-être tout à fait autre chose. Peut-être qu'il faudra se mettre un truc sur la tête, j'en sais rien.
Parce que la grande question quand même que tout le monde se pose, c'est comment ils vont réussir leur coup deux fois. Ça veut dire qu'après avoir vendu à plein de personnes qui ne jouaient pas,
mais ils en seront bientôt à trois là.
Est-ce que bah, les gens vont se rééquiper? Est-ce qu'ils en ont vraiment le besoin, l'envie, etc. Ou est-ce que la Wii ne leur suffit pas totalement?
Si justement ils trouvent encore une fois le truc qui va. La DS était le stylet et le double écran. La Wii c'était la Wiimote. Là ça sera la 3D pour la 3DS sans lunettes. S'ils trouvent un nouveau truc, et c'est ça la grande question, c'est qu'est-ce que ce sera et le feront-ils? Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas de nouveau.
Et puis, un des grands talents de Nintendo là-dessus, et on l'a vu sur la Wii, on l'a vu sur Wii Fit, j'en parlais tout à l'heure, c'est la force marketing complètement dingue. C'est que non seulement ils ont séduit les gens qui ne jouaient pas, mais ils ont séduit notamment aussi les journalistes qui ne jouaient pas. Mais c'est vrai, ils ont eu une espèce de communication gratos offerte par toute la presse, par toute la télé, par toutes les télés. Et tout
comme
ça.
Raël.
Et peut-être que ceux qui ont été justement séduits par la Wii, qui ont déjà parlé et tout ça, commenceront à regarder la prochaine Wii, parce que voilà, tout le monde aime avoir quelque chose de mieux, et puis si c'est pas trop cher, et puis si ça va être Noël, et puis on va se l'offrir.
Et puis s'ils se plantent, il reste toujours les Pokémon, le Black and White qui a fait le meilleur démarrage en vente au Japon, donc
2,6 millions
voilà.
En deux jours.
Nintendo a toujours une alternative.
Mais néanmoins, Nintendo a une énorme perte en septembre. Là, franchement, ça va pleurer dans les chaumières. Camille Donaway nous a quittés. Elle n'est plus au sein de Nintendo of America. Et c'est la fête ! Enfin, des conférences qui ressembleront à quelque chose. Allez, la Vioque, casse-toi. On est bien content que tu ne sois plus là. Voilà, ça n'engage pas forcément Gameblog. Hein, je suis responsable de mes propos. Jeux violents aux États-Unis, 72% des adultes pour l'interdiction de la vente aux mineurs.
Ils ont bien raison.
Je pense aussi, moi.
Le silence.
Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de raison.
Alors moi je serais d'accord à partir du moment où les jeux dits violents, genre donc les plus 18 chez nous, auraient une vraie classification.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a des jeux plus 18,
il faut une vraie classification.
Pourquoi ils sont plus 18 quoi.
Et il faut une vraie responsabilité portée sur les revendeurs aussi, puisque ça sera leur boulot, comme pour les films et autres. Donc bon voilà, mais pourquoi pas.
Bah si les gens qui faisaient les classifications savaient jouer, enfin connaissaient un peu le jeu vidéo, peut-être que...
Ça fait partie de tout un mouvement de mise sous tutelle de l'enfance comme ça qui me fait toujours un petit peu peur. Enfin, mineur quoi, on parle de 18 ans. À 17 ans, vous pouviez pas jouer à un jeu où il y avait de la violence et où il y avait des morts. Enfin,
c'est pas qu'on pouvait pas, c'est qu'on pouvait pas aller l'acheter.
Non mais je vous rappelle quand même que des films comme Rambo, comme...
jamais vu avant 18
ans. Non mais c'était interdit au moins de 13 ans, c'était pas interdit au moins de 18 ans. Enfin les films violents c'était de l'interdiction au moins de 13 ans. Alors oui, au moins de 13 ans on n'est pas encore adolescent, on est encore dans l'enfance, dans l'innocence et il peut y avoir des traumatismes par la violence. Mais à partir de 14 ans, enfin faut arrêter de déconner
non
plus.
C'est pour ça qu'il faut que la classification corresponde. Mais le principe d'interdire certains contenus à certaines audiences me paraît pas si choquant que ça.
Ouais mais enfin pour moi au-dessus de 14 ans, enfin... J'ai toujours un peu de mal à saisir cette espèce de sacralisation comme ça de l'enfance à moins de 18 ans. Ça me fait toujours un petit peu peur.
Ça, c'est le débat de la majorité.
Faut-il interdire Winnie l'ourson
oui.
mineur
avec un rôle qui prône quand même la consommation de drogue.
Je me pose des questions. On peut, elle est légitime. Little Big Planet 2, malheureusement repoussé en 2011. Ghouls Doll Game ressuscité.
Ouais, c'était une espèce de sale blague. Ils avaient dit qu'ils fermaient, donc c'est un service de téléchargement de jeux rétro très pratique et très bien pour ceux qui n'y avaient pas accès. Et ils avaient dit qu'ils allaient fermer. Finalement, c'était juste une blague. Ils faisaient une nouvelle version et
okay,
ils se sont fait un peu de pub.
Une blague à chier. Level 5 qui pourrait développer le prochain Ace Attorney.
Ouais.
Tiens, Chelo, je te passe le micro.
Deuxième rumeur après la rencontre Inafune. Comment il s'appelle déjà, le président de Level 5? Je ne m'en rappelle plus. Le président. Non. Donc, le président de Level 5 qui a rencontré monsieur Inafune de Capcom. Un jeu en rumeur, donc. Et puis, quelques jours après, effectivement, sur Twitter, un développeur de Level 5 qui lâche Oui, je suis bien en train de faire un nouveau Ace Attorney avec
Ce qui a été démenti, a priori.
Il l'a démenti. Toujours sur Twitter, quelques heures plus tard, voyant le truc se répandre sur le net, etc. Donc, est-ce qu'il a fait une bourde et à ce moment-là, il essaie de se rattraper aux branches comme il peut?
Bah oui.
Il pensait que Twitter c'était confidentiel.
Donc, a priori, oui, parce que je vois bien, en tout cas, s'il doit y avoir un partenariat entre Level 5 et Capcom, je vois bien Ace Attorney. Pour moi, ça serait.
Je suis super pour. Hein. Ouais.
Et puis un mec qui écrit quelque chose sur Twitter, à part si c'est sa femme de ménage qui est passée avec son code, et deux heures après tu fais ah, mais non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, j'ai dit que j'ai travaillé sur Ace Attorney. Ben non,
Bobby Kotick, c'était une blague.
Mais c'est ça, voilà. Allez, par contre, ce qui n'est pas une blague, c'est la Wii Remote Plus qui arrive aux États-Unis, mais aussi en Europe, ça y est. Donc vous le savez, c'est le Wii Motion Plus qui est intégré à la Wiimote. En gros, c'est la Wiimote que vous auriez dû avoir depuis le lancement il y a 5 ans qui arrive.
Enfin,
de vie de la Wii, c'est bien, c'est sympa, c'est cool. Rachetez s'il vous plaît, c'est indispensable. Et puis on conclut ce podcast rétro du bilan de septembre 2010 avec Guillermo del Toro qui se rapprocherait de THQ pour faire
c'est sûr.
Les jeux.
C'est sûr, c'est sûr. Et apparemment, c'est pas des petits jeux, c'est des gros projets. Ils travailleraient notamment sur un Survival Horror, mais pas Survival Horror dans le gameplay, etc. Mais en tous les cas, quelque chose qui est lié à l'horreur, qui est un de ses thèmes favoris aussi. Et c'est du sérieux, ouais. C'est du
depuis
sérieux.
Qu'il a lâché Bilbo, malheureusement.
Ouais, Bilbo le Hobbit, il a du temps devant lui, l'ami.
Putain,
clairement.
Qu'est-ce que je suis deg.
Bah ouais, on est tous
enfin,
deg. Hein.
On attendait tous.
C'est deg.
Gollum. Enfin, on le retrouvera peut-être plus tard. Et bien voilà, ainsi s'achève ce bilan du mois de septembre 2010 sur les podcasts de Gameblog.fr. Alors que Traz, subrepticement, nous glisse une dernière info de dernière minute qui est Ron Gilbert qui retrouve Tim Schafer.
C'est pas de dernière minute, mais moi j'y tiens à cette info.
Ah bah alors vas-y.
Non, il a raison. C'est quand même les deux compères de nouveau
de Monkey
réunis,
Island.
L'époque Monkey Island qui sont de nouveau ensemble chez Double Fine Production. Et pour moi, c'est une super bonne nouvelle parce qu'il se dit, encore une fois, c'est des rumeurs qui vont peut-être faire relancer la saga Monkey Island. Et là, c'est génial, quoi. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est l'info du mois, vraiment.
Ouais.
Par rapport à.
Je sais pas s'ils le font parce qu'ils ont pas les droits.
Oui,
mais
c'est possible. Mais en tout cas, ils vont faire des choses du style.
Ouais,
même si c'est pas vraiment la série, des choses de genre.
Retrouver cette patte.
Voilà. Pour moi, c'est cher au
cœur des joueurs.
Franchement, vivement qu'ils annoncent quelque chose, quoi. Si vraiment. Enfin, je pense pas qu'ils l'ont embauché pour rien. Donc. Voilà.
Et ben c'est ce qu'on suivra dans les mois à venir et c'est ce qui fera tout le sel des infos sur gameblog.fr. Un grand merci à toi Erwan
de m'avoir invité,
tout
hein,
à fait.
C'est un vrai plaisir.
Et ben écoute, c'était cool, on a pu avoir tes prédictions hein, qu'on a compris être fort pertinentes.
Voilà.
Et moi je retiendrai en tout cas Amnesia sur Steam, nous as bien envie.
La démo, absolument.
Voilà. On peut te retrouver sur le podcast de Silence on joue, hein, la quatrième saison, c'est quand?
C'est tous les jeudis.
Tous les jeudis, et puis le mercredi hein, à 20h sur nos lives. Le podcast de écran.fr qu'on retrouve aussi forcément sur écran.fr.
Exactement.
Et c'était un plaisir. Merci beaucoup et merci à vous aussi qui avez participé au podcast avec vos questions la semaine le mois prochain, mois d'octobre, il y en aura encore plus. Vous aurez bien intégré l'idée, vous pouvez nous poser vos questions, réagir, donner vos avis sur les jeux dans les forums etc. et on vous intégrera au bilan de chaque mois. À très bientôt sur gameblog.fr ou à la télévision sur DirectStar, vous le savez, tous les mercredis et les samedis. Ciao.
Ciao.
Salut. Ciao.